Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue sur le SAV de la F1 pour cette émission spéciale des SAV d'or de la F1 2009. Alors que certains se tournent déjà sur les années 2000 pour mieux pouvoir se tourner vers les années 2010, 2009 s'inscrira comme une année particulièrement atypique de la décennie et marquera une transition vers un nouveau chapitre de la F1 que certains n'hésitent déjà pas à appeler une nouvelle ère. Si le titre de Jenson Button et le sacre en tant que constructeur de Brown Grand Prix marqueront sans doute l'histoire de cette saison 2009, à l'heure du bilan, il est difficile d'échapper à l'explosion d'un futur champion en la personne de Sébastien Vettel, à l'image de Fernando Alonso ou bien encore de Michael Schumacher qui va bientôt revenir. Le jeune prodige allemand s'est imposé cette année comme un meneur d'équipe, bien aidé dans sa tâche par ce qui s'est imposé au fil des Grands Prix comme la meilleure monoplace de la saison. Le retour au sommet de Rubens Barrichello, l'éclosion de l'écurie Force India ou encore le retour de Luca Badoer, le Messi, 10 ans après sa dernière course.
Alléluia.
Resteront donc parmi les grandes surprises de cette saison. Mais en dehors de ces surprises, il s'avérera qu'il y eut fort peu de déceptions. Bien que largués en début de saison, Lewis Hamilton et sa McLaren ont su revenir en fin de saison, le couteau entre les dents. Tandis que Kimi Raikkonen, dans les Ardennes, s'est réveillé pour rappeler à ses fans et aux tifosi tout le génie qu'il détenait entre ses mains. Même Alonso, pourtant noyé sous les défauts de sa monoplace et placé dans l'ombre des vicissitudes de son écurie, aura fait montre d'un changement radical de comportement au crépuscule de son aventure française et avant de franchir les Alpes pour rejoindre Maranello. Tout cela, nous le savons tous, et le SAV de la F1 ne souhaitait pas revenir en ces termes sur la saison 2009. Cette émission exceptionnelle reviendra de façon décalée sur les faits marquants de cette saison, qui fut également la première que vous ayez pu suivre en notre compagnie. Malheureusement, pour des raisons de disponibilité, Enzo ne fera pas partie de la fête, mais a cependant tenu à contribuer à cette émission en étant président du jury des SAV d'or. Alors avant de retrouver mon comparse de toujours, Shinji, et de le saluer comme le veut la tradition, Monsieur le Président, je vous laisse la parole.
Je déclare la première cérémonie des SAV d'or de la F1, du SAV de la F1, ouverte.
Alors attention Shinji, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Bonne année à tous. Bonne année à
oui,
toi.
Oui, c'est vrai.
Bonne année à
oui,
tous.
Oui, c'est vrai. Bonne année à tous. Bonne future saison à venir. Et puis, en même temps, pourquoi on leur dit bonne année? Ils ont déjà lu bonne année sur le site.
Ça n'arrive qu'une fois par an la bonne année. Alors autant profiter.
Donc, c'est les SAV d'or. Comment cela va-t-il se passer?
Comme des SAV d'or. Et donc, globalement, comme n'importe quelle cérémonie de récompense...
Ah ben, chiant.
Sauf que les gens sont pas là pour récupérer leur trophée.
Voilà, c'est vrai. Hein. C'est le truc pratique, quoi. C'est-à-dire que...
C'est vrai. C'est le côté pratique. En même temps, il y en a certains, je suis pas sûr qu'ils vont avoir très envie de récupérer un trophée. Hein.
Oh. Par exemple, le trophée de la première catégorie.
Oui. Pour commencer cette cérémonie, hein, ce premier SAV d'or de cette première cérémonie, hein, donc c'est un moment historique.
Ah ouais.
Hein, permettez-moi de vous proposer un petit poème. un petit poème, bien évidemment, en relation, vous allez vite comprendre, avec ce premier trophée. Ce poème, je l'ai modestement nommé Ode à la Velsatis.
Ah, je crains le pire. Le petit raclement de gorge juste avant de commencer.
Oh, Velsatis, voiture des princes, voiture des rois, mais surtout voiture des ministres. Oh, Velsatis, toi et ta garde au sol de 20 cm, ton gris hologramme et ton frein de parking assisté. Oh, Velsatis, toi qui veux dire vélocité et satisfaction, tu n'as pas évité d'avoir des phares à la con. Oh, Velsatis, et dire que pour le même prix, je peux avoir une Mercedes ou une Audi. Shinji, puisqu'il faut dire l'auteur à chaque fois. Alors oui, hein, on va être honnête. Là, vous m'écoutez, vous vous dites forcément, mais il est super moche ce poème.
Non, c'est pas, non, enfin oui, hein. oui, c'est vrai. Oui.
Et vous n'auriez pas tort. Mais avouez, qu'il est bien difficile d'écrire quelque chose de potable sur cette voiture. D'ailleurs, car j'ai fait des recherches, savez-vous que des auteurs illustres comme Arthur Rimbaud, Zola, Hemingway ou Molière n'ont jamais écrit sur la Velsatis, hein, si c'est pas une preuve de la mocheté de cette voiture. Et pourtant, cette année 2009 nous a offert pire ou aussi bien, c'est à vous de voir, que la Velsatis. Ce sont bien sûr les monoplaces de F1. Hein. Avec son nouveau règlement technique, on s'attendait à tout et il faut bien dire qu'on a eu de tout. Malheureusement, la limite entre le coup de génie et le coup de folie est souvent extrêmement mince. Et bien évidemment, nous, au SAV de la F1, on ne s'est pas intéressé à la première catégorie, mais à la deuxième.
Ouais, ça, on est des petits pervers, nous. On est des petits cochonous. Hein?
Voilà. Donc, mon cher Yannick,
oui,
pour le SAV d'or de la voiture qui me fait dire qu'elle est pas mal, ma Velsatis, les nominés sont...
Voilà, faut que je prenne mon air sérieux, là. BMW Sauber F1 09. Renault R29. Williams FW31.
Alors,
Monsieur le Président,
le SAV d'or de la voiture qui me fait dire qu'elle est pas mal ma Velsatis est attribué à...
Alors attention, on ouvre l'enveloppe, Fidji.
Vas-y, ouvre l'enveloppe.
Oh, c'est dur.
Que de suspense.
Et le vainqueur est... Ça commence par un R et ça finit par un 29. C'est la Renault R29 de chez Renault. La même marque que la Velsatis, d'ailleurs.
Oui. Pourtant, ce n'était pas un vote qui était censé être guidé. Non. Hein, faut bien le dire.
Bon,
hein, faut,
même voilà. Si on avouera que bon. On en a rapidement trouvé deux. Et que pour la troisième, ça a été beaucoup plus dur.
Oui, car une des grandes questions qu'on nous a posées, c'est « Mais pourquoi la Williams ?»
Oui, c'est vrai.
Hein. Eh bien, on va vous répondre. Parce qu'il en fallait trois.
Non, déjà parce qu'il en fallait trois, puis parce que bon, voilà. On n'a pas envie de taper sur Ferrari ou McLaren, parce que bon, ils ont quand même fait des choses sympas dans la saison. Et que Williams, disons que Williams, même si la voiture est belle, on l'a très peu vue finalement cette saison, elle a été très transparente. Et d'ailleurs, Williams a reçu des voix, hein.
Oui, même si, faut bien avouer que pour cette catégorie, la R29, hein, d'ailleurs, peut-être, qui est peut-être le dernier cadeau de Patrick Le Caiman, hein, qui avait aussi designé la Velsatis, c'est peut-être le dernier cadeau de Patrick Le Caiman à Renault. Hein. Il y a peut-être un lien de cause à effet, hein. Côté massif, parpaing, enfin, voilà, un CX23, voilà, des choses comme ça.
Donc quand même, hein, pour parler un peu de la victoire de Renault dans cette catégorie, on peut citer les chiffres.
La Renault R29 gagne ce trophée avec 64%, c'est-à-dire que deux auditeurs sur trois quand même ont voté pour la R29, suivi donc de la BMW Sauber F1 09 avec 29%, ça fait 1 sur 3, et donc la Williams FW31 qui a quand même reçu 7% ouais. Des voix.
Je connais le coupable, hein. Je balancerai des noms. Donc... comment pourrait-on revenir sur ces voitures affreuses?
Oui, on en a parlé dès même la pré-saison.
Voilà, donc,
on en a parlé.
Je pense que le plus simple, ça serait de tout simplement diffuser l'extrait de cette émission. Et voilà, allons-y.
Donc, ouais, effectivement, des voitures cette année qui changent pas mal. Moi, je sais qu'il y avait une photo quand BMW a proposé à présenter sa voiture. Il y avait une photo. En studio, qui montrait les deux voitures l'une à côté de l'autre. Et j'avoue que moi, ça m'a rassuré, en fait, à ce moment-là.
Non, ça, c'était une grosse connerie. En fait, ils avaient pris en photo leur chasse-neige. Il y avait beaucoup de neige en Suisse, ça fait plus long. Et ça n'avait rien à voir. Moi, j'ai peur de passer quand même 2 heures dimanche matin à essayer de régler ma télé, quoi.
Pourquoi c'est à cause des couleurs de la route?
Même là, pourtant, je comprends pas, là. Mais non, mais bon. Non, mais elles sont... C'est moche. C'est tout.
C'est moche. Ah bah justement. Alors, si c'est moche, je vous mets au défi de me trouver parmi les 10 voitures de cette année, les 3 plus belles et les 3 plus moches.
Facile.
Ah si, ah bah, hey, en même temps, t'as passé 10 minutes à réfléchir avant qu'on enregistre.
Chut, tu m'avais pas le dire.
Ah mais moi, je balance tout, moi.
Non, non, les plus faciles, les plus moches, c'est facile.
Ouais, les moches, ouais. Allez, on va commencer par les moches, c'est ce qui est le plus drôle.
Voilà.
Moi, j'ai surtout des photos de face. Donc, ah, je me base surtout sur le nez avant.
Ah bah, c'est sûr, si tu prends de face, tu vas rien voir de joli. Bon, il y a quand même la Renault qui va se distinguer, mais...
Bah attends, c'est quand même la seule écurie qui essaye vraiment de faire des économies en alignant une F3. Parce que l'avant, on dirait vraiment une F3 ou je sais pas quoi, mais c'est un gros truc là. La Williams, en fait, le nez me fait penser à une Ferrari d'il y a quelques années.
Ouais.
Je sais plus laquelle, mais ouais. La 2003 peut-être, hein, ou 2004 peut-être.
Moi j'avoue, c'est le seul truc que j'aime pas dans la Ferrari cette saison, c'est son nez. Donc alors, peut-être. Les trois plus moches. Allez, la plus moche de toutes.
Renault.
Moi pareil, Renault.
Moi pareil.
Ah, c'est bizarre.
Genre, on est d'accord.
Ah, mais c'est le nez qui est moche, je suis désolé, mais là...
C'est un parpaing.
Mais en fait, elle me rappelle, c'est quoi? C'est la Renault de... Oh. 2003, non, peut-être 2003. Hein. Ou 2002, dans ces années-là, quand c'était Benetton, d'ailleurs. C'était pas Renault. Il y en avait une qui avait un nez comme ça, assez moche, oui. Tiens, il faudra regarder.
Bah, ouais, c'était un peu moche, hein.
La 2002, peut-être.
À partir de 91, de toute façon, les Benetton, elles ont toujours eu cette espèce de gros nez avec une bosse en dessous.
Ouais, bah, 93, tu vois, à peu près, quoi.
Et effectivement, c'est moche. Donc, bon, on s'entend sur Renault. Allez, la deuxième plus moche.
BM.
Moi, je la trouve jolie, la BM.
C'est
pareil, le nez.
Formule BMW.
Ah, mais c'est normal, tu les as toutes de face.
Bon, alors désormais, la deuxième catégorie, Yannick, c'est à toi.
Oula, tout c'est une catégorie où là aussi il y a beaucoup de suspense.
Nous sommes toutes oui.
Oui, je me doute.
Dans l'histoire du monde, et plus précisément de l'humanité, il est une constante qui ne saurait se trahir et trouve une parfaite application dans... Ah, désolé, excuse-moi si je coupe. Allô, oui.
Salut, c'est encore moi.
Ah non, pas encore.
Vous croyez vraiment qu'on allait passer à côté de ces sabots d'or, hein?
Ah, d'accord, je vois, vous avez une revendication à transmettre, c'est ça?
Ouais, parce qu'il n'y a pas non plus que les intermittents du spectacle qui ont des trucs à dire pendant les cérémonies. Nous aussi, on a des trucs à dire. Et attention, on balance.
Mais
pourquoi tu l'ouvres, toi? Pourquoi tu l'ouvres? Tu étais bien dans ton coin, là, et tu l'ouvres. Tu te tais.
D'accord, chef. Mais vous savez, hein, vous connaissez, dès qu'on dit balance, moi, ça me lance, quoi. Enfin, vous voyez, je suis comme ça, moi. C'est sympa tout seul.
Mais j'ai pas dit balance, j'ai dit balance, espèce de demeurée. Balance. Balance, pas balance, balance.
Hein? Oups, désolé, chef. De cette voix-là, ça fait entendre des trucs qu'on n'entendait pas si on entendait comme on les entend. Enfin, vous comprenez, quoi.
Ouais, on va dire que je comprends, ouais. Bon, on était où, là? Ah oui. Bon. On a un coup de gueule à passer, là.
Bah écoutez, vu qu'on n'a pas le choix, apparemment, allez-y.
Bon alors, je me lance.
Oh, cette balance. Oh, cette balance. Oh, que... Ah, vous avez pas dit balance, là. Vous avez pas dit balance.
J'ai pas dit balance.
Ah non, mais d'accord, autant pour moi, patron. Allez-y, continuez, reprenez.
Bon voilà, on a vu que dans vos catégories, il y avait un SAV d'or, la faute bonne idée.
Oui, justement, c'est la catégorie qu'on allait aborder.
Oui, bah, c'est pour ça que vous avez encore oublié de nominer plein de produits comme, par exemple, la décision d'interdire les changements de pneus en course.
Non, mais ça, c'était en 2005.
Ouais, c'est ça, trouvez-vous des excuses, bande de feignants. Et la décision de se qualifier sur un tour, c'était pas une fausse bonne idée, ça?
Oui, enfin, peut-être, mais... Enfin, quoique, là, pour le coup, c'est peut-être une vraie mauvaise idée, tout simplement.
Et cette idée à la con de mettre des rayures vertes sur les pneus tendres à Fuji l'an dernier, c'était pas une fausse bonne idée, ça?
Oui, on est bien d'accord, mais là, nous, on s'intéresse à 2009.
Bah alors, dans ce cas, grand prix de balance, c'est 2009, chef.
Oui, enfin, non, c'était d'y aller une première fois qui était une fausse bonne idée. Quoi, d'y aller une deuxième fois aussi, mais bon. De toute façon, on pouvait nominer que trois trucs. Dans ce cas, on n'y va pas par quatre chemins et on se lance.
Oh, je te balance, oh, je te balance, oh, je...
Ma patrie, qu'est-ce qui vous arrive, là? Vous allez pas vous y mettre aussi?
Oh, chef Fuji, oh, chef Fuji, oh, chef.
Ah bah merde, vous m'avez tout déréglé. Bon, bah écoutez, faut qu'on vous laisse, là. Le patron, il a pas l'air d'être dans son assiette.
Oui, de toute façon, votre interruption, visiblement, c'était une fausse bonne idée.
Et il ne voulait jamais tranquille, cela.
Non, jamais.
Et j'ai répondu un super beau discours et tout, super philosophique et tout, et là, direct, dès le premier, comme ça, il me casse.
En même temps, on aurait dû le prévoir en organisant tout comme une vraie cérémonie.
Ouais, bah en même temps, c'est vrai, hein.
On aurait dû s'en dire le coup venir.
Bon, bah je pense qu'il y a que... Bah maintenant, il n'y a plus que les nominés.
Oui.
Donc, les nominés sont Shinji.
Alors, le Kers, les ailerons amovibles, le détenteur du plus grand nombre de victoires et champion. Ah. Regarde, j'ai reçu du courrier, j'ai aussi des enveloppes.
Ah. Attends, d'abord faut que le président annonce la catégorie.
J'ouvre l'enveloppe.
Attends, mais faut que le président il annonce la catégorie.
Mais je l'ouvre, je ne lis pas, je l'ouvre.
Vas-y, ouvre.
Je l'ouvre, regarde, hop, c'est ouvert.
Waouh, effet spécial. Donc, monsieur le président, où est-ce que vous êtes? Monsieur le président, c'est quelle catégorie déjà? Oui, voilà. Ah ben non, mais ça, celui-là, je l'ai pas. Enfin, je l'ai, mais il marche pas.
Mais il marchera?
Non, il marchera pas.
D'accord, donc tu...
Donc ça sera pas coupé. Ça sera comme ça, naturel. Donc...
Faut quand même donner le résultat, hein.
Et le vainqueur du SAV d'or de la vraie fausse bonne idée est...
Le plus grand vainqueur de Grand Prix devient champion de F1.
Waouh. Ah, dis donc, ça c'est une surprise.
Ouais, quand même, parce que moi, je pensais que le Kers, par exemple, ouais, ça marcherait bien, et finalement, ça n'a pas tant bien marché que ça.
On peut donner les chiffres, hein. Vous êtes 57% à avoir voté donc pour celui qui remporte le plus de victoires dans le championnat et champion, qui a eu une magnifique démonstration cette année de l'absurdité de cette règle.
Oui.
Puisque Button aurait été champion, je crois, dès l'Italie ou des...
une ou deux courses, pas beaucoup plus, mais voilà. Une ou deux courses avant qu'il soit titré, quoi.
Et donc, son arrive ex aequo en seconde position, les ailerons amovibles, 21%, qu'on n'a jamais vu non plus.
Non, pas, ils sont là, est-ce que ça a un effet? On ne sait pas, parce que personne n'en parle. Donc...
Et puis, c'est surtout qu'apparemment, personne s'en sert. Il y a on a eu plusieurs fois des interviews de pilotes qui disent, de toute façon, moi, je m'en fous, je m'en sers pas. Donc, c'est que ça doit vachement leur apporter, quand même. Et donc, effectivement, le Kers, 21%, voilà, de personnes qui ont...
En même temps, ça a peut-être un côté rassurant dans le sens où le Kers est jugé comme une bonne idée.
Oui, voilà. C'est une bonne idée, mais dans un mauvais contexte.
Voilà, mauvais contexte.
Et d'ailleurs, on notera que la FOTA s'est mise d'accord pour qu'en 2010, il ne soit pas utilisé, contre même l'avis de Williams, oui, qui avait défendu le maintien.
Bah, y a
mais
plus que, donc,
n'oublie pas cependant de penser à partir de 2011 peut-être à le réintégrer, mais de façon standard.
Ouais, standard et sur toutes les voitures. Parce que c'est aussi ça.
Voilà. Bah ouais. Donc on va faire comme pour la première catégorie. On va se passer un petit extrait. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir?
Je pense, ouais, voilà. sur la pré-saison ou le début de saison, puisque ça avait été annoncé juste avant.
Voilà. Donc tout de suite, passons l'extrait.
Ouais, mais ça, c'est les idées à Mosley. Il lance toujours un truc extrême pour essayer d'arriver à la moitié de ce qu'il veut, quoi.
Mais par truc extrême, est-ce que tu considérais ce que j'appelle le fucking system championship points? Est-ce que tu qualifierais ce système qui attribue le titre à un pilote parce qu'il a gagné beaucoup de courses? Est-ce que tu dirais que c'est une Mosleyerie? Étais-tu déjà au courant?
Oui, quand même. À l'époque, c'est une bernisserie.
Ouais, c'est une bernisserie modifiée.
Non, mais c'est quand même génial, c'est qu'à la base, c'est l'idée à la con de Bernie de dire on va donner des médailles parce que ça fait plus jeux olympiques.
Ouais.
Parce que ça déstabilise en fait le fan. Bon, on sait tous, on a des copines, on a des amis, de la famille. Dès qu'on est fan de sport auto, on sait très bien qu'on est les seuls à regarder. Qu'il n'y a que les fans de sport auto qui regardent. Donc, s'il y a vraiment un sport où on n'a pas besoin de s'aligner sur le reste, c'est bien le sport auto. Et l'autre abruti vient me dire, oui, ça serait bien qu'on rende ça plus démocratique, qu'on mette des médailles, c'est plus clair pour les gens. Mais nous, on est habitués à calculer le par système de points.
Mais même pour les gens, c'est plus simple avec les points.
Non, mais surtout, moi, je trouve que ce qu'il veut, c'est valoriser la victoire. Mais il y a plein d'autres solutions. Il y a ce qui va sans doute arriver, c'est-à-dire remettre la victoire à un peu plus de points. Mais surtout, moi, ce que je trouve, il y a peut-être un truc qui était, bah, vous étiez peut-être pas né ou vous suiviez pas l'époque, la F1 à cette époque-là, mais c'est à l'époque de Senna ou Prost, tous les résultats ne comptaient pas.
Ouais.
Et je trouve le concept pas mauvais parce que t'as droit à un joker et ça permettait à un pilote de dire, allez, je prends le risque d'attaquer, de remonter, si je me fous dehors, je me fous dehors, ça sera mon joker, mais au moins j'essaye d'avoir la victoire, quoi.
C'est vrai, ça.
Moi, je trouve le concept pas mauvais, quoi. Alors après, tu peux dire oui, mais ça privilégie pas le gars qui est constant, tout ça, quoi. Et c'est d'ailleurs, mais puisque Prost avait été sacré comme ça, mais au moins ça laisse la place à l'erreur, quoi. Un minimum.
Ah, en plus, c'est vrai que c'est le truc de parce que ce qu'a proposé la FIA, grosso modo, c'est ce qui est très drôle, c'est que la FIA s'est opposée au système de Bernie. Mais en fait, nous en a pendu un pire parce que seul le vainqueur était récompensé et puis les autres, ils avaient juste rien. Donc, ça faisait qu'effectivement, le suspense des courses tel que le championnat était vu, le mec qui dominait la course, bah derrière, personne ne se cassait la tête et qu'il y avait mecs qui se disaient, bah moi, je pars 12e, je vais pas m'embêter à me déchirer, je vais préserver ma voiture et mon moteur. Et donc, on aurait eu sur certaines courses des défilés. Alors que justement, on nous dit que le but du jeu, c'est justement de pimenter les courses et de donner plus de challenge à la victoire pendant la course.
Ouais, tout à fait.
Je trouve l'année dernière, avec le système actuel, l'année dernière, on a gagné pas un champion, mais deux champions. Donc à la limite, je préfère ce système-là. Et c'est vrai, comme tu dis, accorder pourquoi pas des jokers, virer le plus mauvais résultat.
C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a plein de bonnes idées. Et ils ont pondu ce truc. Bah, à part Bernie, personne ne l'avait évoqué, quoi.
Ouais, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils font des sondages, des fois, pour avoir l'impression que derrière, ils s'en foutent complet, quoi.
Ouais.
Mais c'est là, en plus, c'est-à-dire que là, ils se sont étonnés de la réaction des gens. Mais ça veut dire que les mecs, ils comprennent strictement rien à la Formule 1. Les mecs, c'est ce que je trouve mesquin, c'est que on sait maintenant que c'est un truc politique. Enfin, c'est parce que la FOTA a pris beaucoup de décisions et c'est vrai que la FOTA sort très grandie de ce qui s'est passé cet hiver parce qu'ils ont pris énormément de décisions. Ils ont fait des consensus sur les règlements dont on a parlé, etc., etc. Et je pense que ce règlement, c'était surtout de dire à la FOTA, très bien, prenez des décisions. Mais c'est nous qui choisissons et votre système de 12 points, 9 points, 7 points et compagnie, vous allez vous le mettre à côté et on va vous donner pire.
Ouais.
Parce que, en plus, ça, c'était
un peu purement politique, alors que à la base, on avait quand même la FIA qui était à côté des équipes pour dire le système de Ecclestone est nul. Donc c'est vraiment purement politique. Et moi, c'est ce qui m'énerve. Et quand je vois aujourd'hui dans un article,
on le sent pas du tout.
Ah bon? Ah merde, je vais rajouter une couche.
Ah, qu'est-ce que c'était drôle.
On n'a pas le même humour.
Voilà, comme ça, au cas où que c'était pas drôle.
Cette émission n'est pas du tout montée.
Non. Donc, puisque cette émission n'est pas montée, on va passer à la 14e catégorie. Non, j'ai conne. Donc, j'ai dit catégorie suivante de notre palmarès 2009 des SAV d'or.
Déjà la troisième catégorie. Et après la poésie, je vous ai offert la poésie. J'ai décidé de vous offrir. Oui, parce que cette cérémonie des SAV d'or, j'ai décidé de la mettre sous le signe de la culture avec un grand cul. Donc, j'ai décidé désormais de passer à la littérature.
Oh.
Alors. J'avais pensé à un extrait du premier volume de Twilight, mais bizarrement, ça parle pas de F1. Donc, j'ai cherché un truc intéressant sur la F1.
Il a beaucoup lu, hein. Faut savoir que ces SAV d'or, on les prépare depuis environ 3 ans.
Oui, j'ai lu à peu près 300 livres. Juste pour faire cette rubrique. Et j'ai trouvé le grand Larousse des trucs à la con, tout le monde se fout. Disponible dans toutes les crèmeries et chez Julien Lepers.
Et le connaissant, je suis sûr que ça existe.
Et j'ai trouvé, attention les amis, c'est de la grande littérature, un article sur le sommeil. Chers amis, ouvrez vos oreilles, la muse de la littérature est autour de nous.
Wow.
Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience, mais sans perte de la réception sensitive du monde extérieur, accompagné d'une diminution progressive du tonus musculaire. Survenant à intervalles réguliers et dont le rôle est encore mal connu, l'alternance veille-sommeil correspond à l'un des cycles fondamentaux chez les animaux, le rythme circadien. Chez l'homme, le sommeil occupe près d'un tiers de la vie. C'est passionnant, n'est-ce pas ? Le sommeil se distingue de l'inconscience, ou coma, par une absence d'impression des réflexes et par la capacité de la personne endormie à ouvrir les yeux et à réagir à la parole et au toucher. Il existe une organisation du sommeil et de ses trois états. On parle de cycle circadien pour l'alternance entre la veille et le sommeil. On parle de cycle ultradien pour l'alternance entre le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil est provoqué par l'arrêt de sécrétion d'histamine, un neurotransmetteur qui permet au cerveau de rester en éveil. Ceci est la théorie passive où la formation réticulée a un rôle prépondérant et le sommeil est dû simplement à un arrêt de l'éveil. Il y a aussi une théorie active par activation de mécanismes propres au sommeil. Bien évidemment, ces deux théories ne sont pas incompatibles. Le sommeil est également lié à la baisse de la luminosité, production de la mélatonine, et à une baisse de la température corporelle. Le sommeil, et là je ne fais que lire ce qui est écrit, peut aussi être causé par 20 types, puis 19 après que Piquet Junior se soit crashé. Oui, désolé, le livre a quelques mois. Qui tourne en rond pendant 2 heures sans se doubler et surtout après avoir mangé un poulet rôti et des pommes de terre.
Ça sent le vécu, ça.
Yannick, je crois qu'il va falloir passer à la suite, les auditeurs s'endorment.
Bon bah dans ce cas
donc pour le SAV d'or du Grand Prix où tu prends du Red Bull en intraveineuse parce que le Grand Prix il te fait chier, les nominés sont Yannick.
Le Grand Prix d'Espagne,
comme d'habitude.
Le Grand Prix de Turquie quelques semaines après, et enfin à la grande déception de tous, le Grand Prix du Japon.
Donc monsieur le président,
le SAV d'or du Grand Prix où tu prends du Red Bull en intraveineuse est attribué à...
Ah merde, j'ai déchiré le bulletin. Ah. Voilà, chers auditeurs, je vais prendre quelques minutes pour recoller le bulletin.
Hein. Donc, tant que c'est pas le Turpon ou le Japan, il n'y a pas de souci.
Alors, voilà, il y a un A dedans. Ouais, c'est pas la Turquie déjà. Voilà, ça, je vais recoller, ok. Ah bah, c'est la Turquie.
La Turquie.
La Turquie, dis donc, quelle surprise.
Bah, la Turquie a battu l'Espagne. Petite surprise, hein. Espagne, grand classique, parmi les classiques.
Bah disons que généralement, dans les votes, ce qui domine, c'est le sentiment de... on va dire la Turquie parce que de toute façon on s'en rappelle plus donc.
En même temps, si on s'en rappelle plus, il y a une raison.
Voilà. Donc faut quand même dire que effectivement c'est une petite surprise parce que la Turquie réunit la moitié des voix.
50%
voté, 50%.
Une voix sur deux.
Devant logiquement l'Espagne 36% et le Japon 14%.
Mais c'est vrai que le Japon, bon, la course ne s'est pas forcément passé grand chose, mais il y a eu beaucoup de choses pendant les qualifs. Et puis, enfin, il y avait le contexte, et puis c'était chiant, mais c'était moins chiant quand même. Ah, mais... Alors que c'est vrai que la Turquie, bon là c'est clair et net, hein. Vettel qui part devant, il fait une bourde, Button passe devant, puis c'est fini quoi.
Voilà. je dois avouer que je m'en rappelle plus du reste.
Bah, de toute façon, c'est ce qui s'est passé pendant la course.
Par contre, je crois me rappeler que le début de l'émission de la Turquie était très très, elle pour le coup très réveillée. Donc ce que je propose, bah, c'est qu'on se repasse directement l'extrait du début de la Turquie.
Bien évidemment.
Salut à tous et bienvenue pour le service après-vente de la F1 consacré au Grand Prix de Turquie. Un Grand Prix au bien soporifique. Mais heureusement, la FIA et la FOTA réussissent à nous tenir en éveil pendant cette saison qui prend de plus en plus des airs de cavalier seul pour Brown Grand Prix et Button. Ce Grand Prix n'aura cependant pas été sans enseignement et les plus optimistes d'entre nous y auront même trouvé des signes encourageants, à commencer par le premier abandon d'une Brown cette saison. Et là, les pessimistes comme moi se réveilleront en précisant qu'il s'agissait de celle de Barrichello. Toujours est-il qu'au programme, vous retrouverez notre contenu habituel, enrichi de quelques nouveautés, parce que quand une course est chiante, il faut bien meubler. Toujours meublé, nous effectuerons un petit retour sur la guerre entre la Fédération et les troupes impériales, les constructeurs, je veux dire, et plus particulièrement sur nos pronostics qui devraient être en théorie. Mais bien sûr, tout cela se fera en compagnie, vous l'avez bien deviné, de mes fidèles compagnons, que nous retrouvons tout de suite. Bonjour Shinji et bonjour Enzo.
Oh, il me faut aussi ton père.
Oui, père. Quoi? Non. C'est pas possible.
Ah, Star Wars, on redevient des gosses. Eh oui, on va vraiment se faire chier dans cette émission, donc on va vous parler de Star Wars, de plein de trucs, mais pas de Formule 1.
Ah ouais.
Alors, vous avez bien dormi? Vous avez bien regardé le Grand Prix?
Sincèrement, j'ai très peu de souvenirs de Grand Prix.
Je pense qu'on va avoir, on va avoir de gros problèmes pour trouver trois moments à la course.
Oui.
Je pense qu'on a tous le même de souvenirs, en fait.
Voilà. Le chiffre inutile de Shinji, tout de suite.
Oui.
Parce que tout le monde attend ça. Hein. Après, on peut déjà dire que, en plus du chiffre inutile de Shinji, vous pouvez trouver sur le blog, le jeudi ou le vendredi avant le Grand Prix, le drapeau inutile de Shinji. Vous apprenez l'histoire et quelques petites anecdotes sur les drapeaux des pays qui accueillent la Formule 1.
Et bientôt, le Grand Prix inutile.
Ah non, ça s'est déjà fait.
Ah, très joli extrait.
Ah ouais, c'était un bon moment, hein.
Oui.
Ah là.
De toute façon, le SAV, c'est toujours des bons moments.
Ouais. Surtout quand on se fait chier pendant la course, c'est bizarre quand même.
Voilà. Alors, cher Yannick.
Oui, arrive l'heure importante.
Oui, première special event de cette cérémonie.
Le SAV d'honneur, enfin le SAV d'or d'honneur du SAV de la F1. Alors, pour son premier palmarès, toute l'équipe du SAV de la F1 a souhaité décerner un SAV d'honneur. Tenu secret depuis de longues semaines, nous allons bientôt vous le faire découvrir. Mais avant cela, afin de ménager le suspense et de rallonger un petit peu le temps de l'émission, puisque bon, faut quand même meubler nos chaudes soirées d'hiver, nous allons vous dire qui n'aura pas ce SAV d'or d'honneur. Donc nous pouvons déjà vous dire que Jenson Button et Rose Brown ne recevront pas le SAV d'or d'honneur pour leur œuvre cette saison. Leur titre, en effet, amplement mérité, étant les seules récompenses à la hauteur de leur performance. Un SAV d'or d'honneur ne serait qu'une récompense de plus. Donc, est-ce donc utile?
Voilà, une breloque de plus ou de moins.
Voilà. Nelson Piquet, Pat Simons et Flavio Briatore ne recevront pas non plus de SAV d'or d'honneur, parce qu'un tel palmarès ne saurait qu'entacher la définition même d'honneur que certains d'entre eux prétendent pourtant vouloir défendre farouchement.
L'honneur, ça a quelque chose qui a du sens.
Non! Non plus, le SAV d'or d'honneur ne sera pas attribué ni à Toyota, ni à BMW qui, après des années d'investissement gâchées par leurs propres soins, ont décidé de fuir, délaissant derrière eux des équipes dévouées et souvent victimes d'une telle décision aux mains d'illustres inconnus investisseurs serbes qui rachètent les droits de propriété intellectuelle d'une écurie japonaise.
Alors qui?
Alors qui?
Qui?
Alors on va vous dire, mais avant... On peut encore vous dire que nous n'attribuerons pas non plus le SAV d'or d'honneur à la FIA ou à Bernie Ecclestone. Et ce, pour la simple et bonne raison que nous leur avons attribué trop de drive-thru au cours de nos émissions. Et que donc, nous ne pouvons pas leur donner une récompense de ce genre. Donc, on va se tourner vers Monsieur le Président.
Le SAV d'or d'honneur est attribué à...
Alors... Voilà. Ah bah là, je l'ai ouvert comme un barbare, mais j'ai réussi à garder l'étiquette à l'intérieur.
Il y a du progrès.
Alors, le SAV d'or d'honneur 2009 est attribué à...
Il est attribué à l'équipe Ferrari pour l'ensemble de son œuvre comique.
Voilà, ouais, on en a un comme ça, ouais.
Il est très important de dire pourquoi Ferrari l'a reçu.
Bah, d'abord parce que vous êtes très nombreux, chers auditeurs, à être fans de Ferrari, et donc nous sommes faibles, alors nous allons dans le sens de la majorité. Non, on s'est bien marré avec Ferrari cette année quand même. Ça, tout a commencé, cette histoire formidable a quand même commencé lors du Grand Prix d'Espagne, qui nous ont animés de façon magistrale en laissant... Ah, bah,
déjà on peut dire que ça a commencé au Grand Prix d'Espagne seulement.
Oui, seulement.
Faut pas l'oublier, parce oui. que souviens-toi que pendant les premières émissions du SAV, toutes les semaines, on faisait « Ah oui, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas fait de pire début. Ah, » il y a déjà eu ça.
Et on a failli avoir « Ils n'ont jamais fait pire. »
Oui, on a failli, oui.
Non, mais tout a commencé en Espagne avec ce grand moment de télévision. Hein. Felipe Massa ralenti à 90 km/h, à peu près, se faisant doubler par Fernando Alonso. Et Felipe Massa, gros comme ça, au ralenti, puis il prend juste quelques points, là, il pouvait prendre le podium, mais tu...
C'est vrai. C'était voilà. Pas censé être comique.
Oui, c'est vrai, mais... Merde, putain, on a des fans de Ferrari, on a souffert. Non, franchement, on avait honte à ce moment-là.
Oui.
Ah ouais, moi personnellement, j'avais honte. Je me suis trouvé ridicule alors que j'étais... Je suis même pas... Ça, c'est dingue, on n'est pas impliqué chez Ferrari, et pourtant on se trouve ridicule.
Bah, même sans être, oui, sans être fan de Ferrari, c'est ridicule.
Oui.
Hein.
Et pourtant, alors, à la même image, hein, que leur début de saison sportivement, on disait, non, ils peuvent pas faire pire qu'en 1980, non. Et puis là, on se disait, non, ils peuvent pas faire pire que Massa en Espagne, ah, non. Et quelques mois ont passé.
Quelques mois, oui.
Et après, la menace de changer de championnat. Après l'accident de Felipe Massa.
Lui, par contre, ça, ce n'était pas comique, voilà. Bien évidemment.
Oui, merci de préciser.
C'est quand même plus utile de préciser. Ça ne rentre pas, quand même.
Mais l'accident de Felipe Massa a ouvert la deuxième page comique de cette saison pour Ferrari, qui a été le grand feuilleton, qui d'ailleurs nous a fait vivre, hein, et a fait un petit peu le succès de l'émission au mois d'août. Le remplacement de Felipe Massa, d'abord par Schumacher. Alors, Schumacher qui vient, puis après, oui, il vient, il va venir, puis après Ferrari qui dit, oui, il va peut-être venir, puis après qui dit, il va peut-être pas venir en fonction de son coup, si qui tient, qui tient pas, et puis après c'est, on va prendre Badoer. Et là, c'est devenu très drôle.
Troisième étape.
Là, c'est devenu leur pire contre-attaque. Voilà. C'est quand même le c'est tellement ridicule. Alors surtout, ce qui était ridicule, c'était de choisir un pilote pour trois courses, de prendre un pilote volontairement qu'on sait pas très bon, et de le virer au bout de deux courses.
Mais c'est vrai qu'ils ont été quand même super cool avec lui. Hein.
Ah ouais, ils ont été super cool. Ah ouais, super cool. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris un pilote qui était en train de briller dans son autre équipe, donc ils ont fait une bonne opération, quoi. Mais alors, la saison de Ferrari, c'est quand même continué encore un peu plus avec le feuilleton Fernando Alonso. Et Kimi Raikkonen.
Oui, ça.
Et le renvoi. Ça va, le renvoi avec beaucoup d'élégance de Kimi Raikkonen. Hein,
Oui, enfin.
Enfin, le renvoi de Kimi Raikkonen.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit on le renvoie, ils ont dit c'est Alonso qui vient.
Voilà.
Donc, bah voilà, quoi, on ne peut pas mettre deux personnes dans une voiture, il y a un souci, quoi.
Voilà. Et, bon, alors après, il y a eu le feuilleton Ferrari avec trois voitures, etc. Puis ça s'est encore continué. Hein, lors des Ferrari World.
Ah oui.
Première apparition publique
avec un magnifique pull
de ah ouais Fernando Alonso. Alors là, sérieux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit lui c'est sûr il vient de chez Renault.
Ah ouais, il y avait des losanges.
Des losanges de toutes les couleurs, ça peut venir que de chez Renault. Mais surtout le moment ridicule suprême, c'est Luca Di Montezemolo qui aborde une Ferrari avec derrière lui un vice-champion du monde et un double champion du monde, s'est tanké comme une grande buse.
Comme une merde, ouais.
En plein milieu d'un bac à sable. Au point que... Moi, je me rappelle avoir vu l'image, il y avait une vidéo qui avait été filmée, au point que tu as Fernando Alonso qui descend de la voiture, et qui regarde en se disant mais dans quoi je suis tombé. Qu'est-ce que j'ai comme boulot à faire là? Je sais pas, on se croirait sur le Paris-Dakar, on est au mois de novembre. Mais c'était encore mieux vers la fin, puisque le clou du spectacle, c'est que Ferrari, qui avait un sens de l'humour profond, a vu partir son champion du monde.
Oui, oui. Hein, l'homme quand même, enfin je veux dire, il y a 3 mois, on disait... c'est pas possible, je veux dire, c'est, Soumi, Ferrari, tu vois, ça rime,
voilà.
Enfin, il sera rouge à vie.
Ouais, bah voilà, bah, il sera rouge. Il sera rouge, mais en noir et blanc.
Voilà, voilà. En petit peu grisé, quoi.
Voilà. Donc voilà. Donc bon, alors, bon, c'est bien évidemment pour tout ça, bon, c'est aussi parce qu'on est des gros lâches et que bon, bah voilà, on sait que beaucoup d'entre vous sont fans de Ferrari. Mais c'est aussi parce qu'on a quand même, grâce à eux, passé de bons moments dans nos émissions. C'était de bon temps, ça, hein.
Ouais, parle pour toi.
C'est vrai que t'as souffert. Hein. D'ailleurs, tu nous dois toujours une chanson sur Kimi.
Mais... bon, alors... il est pas encore revenu.
Non, c'est vrai qu'on avait dit que tu ferais une chanson sur Kimi quand il partirait.
Oui, et
il
c'est
pas
parti,
sûr... il est en pause.
C'est pas sûr qu'il revienne pas.
Oui,
puis, attends, il est pas parti en NASCAR ou en DTM aussi, hein.
Vu ses dernières déclarations, c'est pas non plus sûr qu'il revienne.
Oui. Hein. Il est pas parti en Super League Formula. On est bien d'accord.
Oh, c'est petit, ça.
Il est pas parti en NASCAR.
C'est vrai.
Il part en WRC. Et il aura une Citroën C4 l'an prochain.
Ouais.
Hein. Hein, pas une Punto Abarth, machin. Non, une Citroën C4. Une vraie Citroën C4 WRC.
J'ai jamais vu Shinji comme ça. Enzo, au secours. Rejoins-nous, j'ai peur. Chers auditeurs, si je ne finis pas cette émission, vous n'avez plus de nouvelles sur le blog, cherchez du côté de chez Shinji. Dans sa cave, tout au fond.
C'est vrai qu'en plus, cette nouvelle saison va redéfinir complètement notre fanatitude.
Ah bah oui.
Avec Alonso qui vient chez Ferrari, Raikkonen qui part. Qui revient, mais pas chez Ferrari.
Donc, bon, Archie, calme-toi. D'accord? Maintenant, il faut passer à la prochaine catégorie.
Mais non, mais justement, j'ai besoin d'avoir la niaque pour cette nouvelle catégorie.
Ouais, c'est vrai. Je viens de voir l'intitulé, oui, c'est vrai.
Mes amis, chères auditrices, chers auditeurs, il y a un demi-siècle, un pasteur noir faisait un rêve plein d'espoir, de paix et d'harmonie, un rêve qui nous guide encore aujourd'hui et qui nous guidera demain. Oui. Eh bien, mes chers amis, mes fidèles, moi aussi j'ai fait un rêve.
Oh non!
J'ai rêvé qu'un jour, la FIA devienne une organisation sensée, travaillant pour le succès et l'avenir du sport auto. J'ai rêvé qu'un jour la FIA prenne à bras le corps la thématique environnementale pour apporter des solutions pour l'avenir de notre planète. J'ai rêvé qu'un jour on ait des commissaires de piste qui ne mettraient pas 3 jours pour sanctionner des pilotes en donnant des pénalités uniquement quand cela était justifié. J'ai rêvé qu'un jour on ait des sanctions logiques qui ne changent pas toutes les 2 semaines pour des faits pourtant similaires. J'ai rêvé qu'un jour au SAV, on n'ait plus à passer notre temps à taper sur la FIA car ils se comportent comme des débiles. J'ai rêvé qu'un jour, toutes les équipes, tous les pilotes soient traités en pure égalité et pas en fonction de réseaux d'influence, de copinage ou de détestage. Oui, je sais, ce mot n'existe pas. Oh oui, mes amis.
Oh oui, alléluia, oui, mon frère.
J'ai rêvé fort. Et c'est à ce moment-là que mon réveil a sonné et que j'ai dû me lever. Parce que bon, il fallait bien que j'aille au boulot non plus. Et parce que tout cela n'est malheureusement qu'un rêve. Voici le SAV d'or qui prouve que la FIA agit pour le bien de la F1, du sport, du monde et des castors. Et les nominés sont, mon cher Yannick.
La FIA qui prend 45 minutes pour décider d'arrêter le Grand Prix de Malaisie pour cause de pluie. La FIA qui récolte ce qu'elle a semé quand Button pleure parce qu'il ne peut pas doubler Kobayashi au Brésil. La FIA qui règle ses comptes avec Briatore alors qu'elle connaissait le scandale depuis 1 an.
Président.
Le SAV d'or qui prouve que la FIA agit pour le bien de la F1, du sport, du monde et des castors est attribué à...
Enveloppe. Alors là en plus faut pas que j'abîme le truc parce que les intitulés sont super longs. Le SAV d'or est attribué à la FIA qui règle ses comptes avec Briator alors qu'elle connaissait le scandale depuis un an.
Waouh. Bon, souvent, en même temps, la FIA s'en sort bien parce que quoi qu'il arrive, elle aurait gagné.
C'est vrai ça, tiens. Elle gagne de... Tu vois, là, voilà encore une arnaque type FIA.
Voilà.
Pas SAV d'or, et comme par hasard, il n'y a que la FIA qui peut gagner.
Je propose qu'on leur retire ce SAV d'or. Donc, au niveau des chiffres, donc cette proposition de la FIA qui règle ses comptes, alors quoi qu'on nous a précisé que c'était pas la FIA.
Ah.
Que c'était Max Mosley qui réglait ses comptes. Mais bon,
oui, la FIA il connaissait quand même le scandale depuis un an.
La FIA et Max Mosley, bon, voilà. C'est pareil. Comme... Donc, cette proposition a réuni 64% des suffrages.
Ah oui, large victoire.
Devant la FIA qui prend 45 minutes pour décider d'arrêter le Grand Prix du Brésil pour cause de pluie, 29%.
D'ailleurs, ça n'arrivera plus à partir de cette année.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont dit en fait que le temps de coupure sera rajouté au temps...
Ouais. Bah, je sais qu'il y avait eu une époque où ils avaient divisé un Grand Prix en deux manches.
Oui, c'est
un cas. Et je crois que c'est Prost qui avait gagné au bénéfice des deux manches.
Ouais, là en plus ça donne des trucs compliqués au niveau des points et tout.
C'est là où Enzo manque. C'est là Enzo, bon, là, il dit, oui, c'était le Grand Prix de Barcelone en 83. C'est le Grand Prix, je me rappelle, Alesi faisait un dépassement. Et...
À Montjuic. Enfin, peut-être, hein.
La dernière réponse c'était la FIA qui récolte ce qu'elle a semé quand Button pleure parce qu'il ne pleut pas, parce qu'il ne peut pas doubler au Brésil, n'a réuni que 7% des voix.
Oui.
Mais merci à ces 7% d'avoir voté.
Oui.
Donc voilà, nous on en a dit des choses sur le Cabriator.
Oh oui.
Mais en plus ce qui est bien c'est que quand même la FIA c'est des malins. Ils ont entendu qu'on les avait nominés pour le SAV d'or. Et ils se sont dit, on va essayer de faire le doublé. On va essayer de l'avoir aussi en 2010.
Ah. C'est vrai qu'il peut... C'est...
Bon, quoique là, c'est plutôt... on voit plutôt l'adjuger à la justice française qui agit pour le bien.
Briator, c'est comme le furet. Hein. Il est parti par là, il revient d'un autre côté.
Donc, on va repasser un extrait. Oui, je me rappelle d'une émission... Bah, c'est l'émission juste après, donc c'est l'émission du Grand Prix d'Italie, je crois. On était revenu en longueur sur Briator, donc voilà, on vous laisse...
Sur l'affaire. Hein.
Voilà, sur de Crashgate.
Moi, ce qui me choque dans cette histoire, parce que je crois que le mot est pas trop fort, c'est le fait qu'on condamne Bonno, c'est une chose, mais c'est surtout qu'on a appris... que la FIA était au courant depuis un an et ils n'ont rien fait. Et ça, je trouve ça lamentable.
Bah, l'argument de la FIA, c'est que donc
tant qu'il n'y a pas de plainte, on peut rien faire. Désolé.
Pour revenir à ce qui était dit.
Je saisir de l'affaire s'ils le souhaitent. Hein. Ils l'ont déjà fait par le passé.
Pour revenir sur les détails. Donc effectivement, après le crash, Nelson Piquet Senior a demandé à son fils de lui dire c'est pas possible, t'as pas pu te planter. Et son fils a avoué, il a dit oui, effectivement, on m'a demandé. Et donc au Grand Prix du Brésil l'année dernière, Nelson Piquet Senior est allé à la rencontre de Charlie Whiting, le directeur de course, et lui a dit, voilà, qu'est-ce que risque mon fils si on met ça sur le devant de la scène? Et donc, Whiting lui a dit, pour le moment, vous ne pouvez rien prouver. Et donc, effectivement, l'affaire a traîné comme en attendant que Piquet se fasse virer. Et c'est vrai que le côté qui est un peu...
Il pouvait tout autant prouver qu'actuellement. Hein.
Voilà, qui est un peu hypocrite, ouais. En quoi est-ce que il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui, comme l'a fait Piquet, qui témoigne? Il suffisait juste de dire, voilà, nous on a un renseignement comme quoi il y a peut-être une tricherie, on veut écouter vos bandes sonores, on veut voir vos télémétries, etc. Et sur ces preuves-là, ils pouvaient faire quelque chose.
Tout à fait. Et donc, ça, moi je trouve ça un peu lamentable qu'ils aient rien fait, parce que les faits étaient quand même relativement graves, ils le reconnaissent eux-mêmes. Donc tout ça c'est un peu.
Alors surtout que là on peut même pas sortir.
C'est un peu choquant.
On peut même pas sortir l'excuse de dire oui vous savez avec parce que ça a été l'excuse là, pendant toute la saison 2009, c'était de dire avec la guerre FIA FOTA on n'a pas eu trop le temps de s'occuper des autres affaires. C'est notamment
arrêter avec ces
ce qui a notamment avait justifié le fait qu'il y avait eu très peu de pénalités, très peu d'interventions contre les pilotes. Mais non, mais là ça remonte au Brésil, donc ça veut dire juste en novembre 2008.
Et là je pense que s'il l'avait fait à ce moment-là, Honda était encore là, BMW avait
oui.
encore
annoncé. Là ils sont
sanction, là la sanction aurait pu être terrible pour Renault. Mmh.
Ouais.
Je pense qu'ils auraient pu être carrément exclus.
Oui, tout à fait. Encore une fois, de jolis extraits. Alors Yannick, c'est à toi.
Ah oui, catégorie suivante. Et quelle catégorie ? Une magnifique catégorie. Et pour vous la présenter, j'avais envie de... Tout à l'heure, tu faisais de la culture. Donc là, j'ai décidé d'aller dans la culture aussi, mais dans la culture, télévisuelle. Mm-hmm. Bon, par contre, avant de commencer... Faut que je me prépare, faut que je me mette en condition. Je vais chanter la chanson, ça sera mieux. Ah, attention. Ta 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 ta. Bon voilà. Bon, je vous avouerai qu'on n'a pas les moyens de se payer le vrai générique, hein, donc on est obligé de le faire un peu bruitage maison, mais ça ressemble. Hein. Donc. Alors Shinji, as-tu reconnu ce jeu ?
Question pour un champion.
Voilà, ouais, c'est voilà. Bien. Ouais. Alors, on va faire une petite question pour un champion, tu veux bien ?
Ouais.
Tu seras le champion du SAV.
Oula.
Ah,
mais les questions sont dures.
Ouais, c'est très dur cette chanson-là, c'est à voir. Tu vas en chier sur cette question-là. Mais d'abord, la question c'est, Shinji, est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu la laisses ?
Je prends la main.
Voilà, c'est pareil, hein. Pour les jingles, on les fait maison. Non, regarde ça pour Shinji, est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
Oui, alors attention, je tiens ma fiche, vous ne voyez pas, mais je la tiens exactement comme Julien Lepers. Attention !
Ouais !
Tu me stresses ? C'est parti ! Je suis un organisme pluricellulaire disposant de capacités phénoménales d'anticipation, de réflexion et de stratégie. Bipède aussi bien présent dans les Ardennes que sur les pentes du mont Fuji. Je suis connu pour ma maîtrise du talon pointe, mais parfois dépourvu de tête. J'ai prouvé à plusieurs reprises que le ridicule ne tuait pas. En 2009, j'ai été contraint par mon écurie à rouler au ralenti en me faisant doubler volontairement comme un gros cake par mon futur coéquipier en Espagne, de peur de manquer d'essence. La même année à Singapour, je me bouffe le même mur que celui qu'avait volontairement embrassé mon prédécesseur brésilien. Sur demande de ses patrons pour faire triompher mon coéquipier espagnol. Et quelques semaines plus tard, je me manifeste au Brésil par un caca nerveux légendaire contre Adrien Sutil avant de remettre le couvert deux semaines plus tard devant un parterre de journalistes. Futur lauréat d'un SAV d'or qui porte mon nom, je suis brésilien, français ou italien. Je suis.
Un pilote de F1 qui a l'air con ?
Oui, bravo, c'est phénoménal. Quel champion incroyable. Bravo, Shinji.
Waouh.
Ouh, dis donc.
Tu m'as stressé, là.
Bon, allez, là. Après, Julien Lepers, Yannick le Normand.
Wow.
Je suis Normand.
Ah, il est Perse ?
Non, mais il s'appelle Lepers, donc. Voilà. Essaye de suivre, s'il te plaît, j'ai dit. Ah, merde. Donc, alors, par contre, c'est bien, tu as gagné, Shinji.
Oui.
Tu es champion de question pour un champion.
Waouh.
Mais la question, c'est, est-ce que tu vas tenter la cagnotte ? À savoir donc que tu restes, parce que tu t'en vas avec toute mon estime.
Ah bah je...
Tu as le temps, tu as 5 secondes pour réfléchir.
Je tente la cagnotte.
Ouais. Eh ben on se retrouvera lors d'une prochaine émission. Les nominés, Shinji, s'il te plaît.
Donc, les nominés. Grosjean, après sa sortie de piste en essai à Singapour, à l'endroit même où s'était crashé Nelson Piquet en 2008. Yarno Trulli pour sa colère contre Adrien Sutil au Brésil et la conférence de presse à Abu Dhabi. Felipe Massa contraint d'économiser son essence en Espagne. Président.
Le SAV d'or du pilote qui a pas l'air con est attribué à...
And the winner is... Ah. Belle enveloppe, hein. En fait, je me disais aussi que j'aime bien les enveloppes. Je préfère rouge, j'aime bien les enveloppes parce que... Je trouve le papier rouge qui est très 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 sympa parce que bon des fois t'as des enveloppes bleues qui sont pas top.
Ouais.
Et moi je trouve que le rouge c'est pas mal. Ah par contre il y a des enveloppes marron et j'en ai un paquet là dans le bureau, c'est pas terrible. Donc.
Et les jaunes ?
Les jaunes, ça dépend des jours. En été je trouve ça sympathique mais bon l'hiver c'est un peu moins bien. Donc voilà. Ah il faut que je donne la.
Oui il faut que tu.
D'accord.
Oui.
Alors and the winner is.
The winner.
Attends. Excusez-moi, monsieur. Il y a un problème. J'ai deux noms écrits là. C'est normal. Les vainqueurs sont Felipe Massa contraint d'économiser son essence en Espagne et Yarno Trulli pour sa colère contre Adrian Sutil au Brésil et la conférence de presse à Abu Dhabi.
Wouhou!
Donc ça, Massa, il en aura un.
Allez hop! Quand c'est exécuté, ouais. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un double qu'on donne à deux ou est-ce qu'on peut dire qu'en fait c'est la moitié d'un?
Le plus drôle, je pense, ça serait qu'on en donne un seul.
Ouais.
Et on regarde comment on va réagir à Yarno Trulli.
Ah ouais.
Avec photo à l'appui et tout. Donc, avec bon, pauvre gros Jean quand même.
Oui. Hein. Seulement 14% des voix.
On doit bien avoir deux extraits là-dessus.
Bon, oui.
Oui, bah.
Oh, oui, oui.
On va vous chercher deux extraits puis on revient. Voilà. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. En plus, on enchaîne sur le cas.
Ah oui, oh non, on va passer des heures. Alors, sixième position.
On se le garde pour plus tard.
Ah non, non,
c'est pas vrai. Ah non, hein. Ah non, ça fait deux jours que je rumine ma colère, ma honte, ma rage.
Il y a des bourdes de toutes sortes, on en a vu plein. Des écrous mal fixés, des pièces qui marchent mal, qui vont pas vite, plein des conneries, franchement, en course, on en a vu plein. Mais s'il y a un truc qui fout la honte, c'est la panne d'essence, franchement.
Le pire, c'est même pas une panne d'essence. C'est une panne d'essence. Non, enfin, pour moi, une panne d'essence, c'est ce qu'on avait vécu avec Häkkinen, qui, dans le dernier tour, était obligé de se garer sur le bas-côté, parce qu'il n'avait plus rien dans le
ouais. Ah là, il s'est arrêté 200 mètres après, hein, la ligne. Hein.
Le truc, c'est surtout que c'est que les, bah c'est comme c'est un exploit de Ferrari, quoi. Ils ont bien calculé. Mais c'est surtout c'est que les mecs sont obligés de dire au pilote, alors qu'il a pour la première fois de la saison une bonne voiture, ils sont obligés de lui dire, faut que tu ralentisses et puis surtout que tu ralentisses de beaucoup. Au point qu'ils lui disent, laisse passer Alonso.
Il a sauvé 200 mètres.
Il paraît que les mecs dans le garage de Renault, ils étaient mais morts. Ils n'arrivaient pas à le croire quand on leur a dit, ouais, faut que Massa y repasse au stand. Comment ça? Comment ça? Ah non, mais alors ça, c'est sans doute la boulette de l'année.
Mais si c'était arrêté, ça aurait peut-être été pire, en termes de classement.
Ah bah, ils ont bien fait d'économiser, hein. En termes d'image, c'est ridicule.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je le crie, je suis pas d'accord.
Vas-y, vas-y, crie-le. Je me révolte.
Non, je vais pas réveiller tous les meubles. Mais, à un moment donné, ils lui disent, tu vas pas avoir assez d'essence. Là, on nous dit que s'il s'arrête, il ressortira septième, quoi, à peu près. C'est ce que c'est les calculs de TF1. Eh ben, franchement, moi, j'aurais préféré 100 fois mieux qu'il s'arrête au stand et surtout qu'il mette des tendres. Ils ont pas pensé à ça, ces couillons. Mais s'ils mettent des tendres, alors que tout le monde est en dur, il peut remonter très facilement, je pense, sur celui qui occupe la sixième place à ce moment-là, je sais même pas.
Mais c'est,
c'est Alonso?
Il y a Heidfeld qui est septième.
Non,
c'est Alonso.
Heidfeld. En fait, s'il s'était arrêté au stand,
Je pense qu'il aurait pu rattraper très facilement Heidfeld. Il avait des pneus tendres, il aurait au moins animé cette fin de course et il aurait fini avec panache, plutôt que ce finish en autre boudin. Qui était pitoyable et qui a fait hurler 50% de la population italienne.
Bah mon premier énorme drive-through, ça serait contre Yarno Trulli.
Ah bah c'était un de mes deux.
Parce que Yarno Trulli, alors il je sais pas ce qu'il nous a pété. Alors en plus c'était très drôle, parce que c'était très bien parce qu'il y a eu un pépin de son à ce moment-là. Et on a vécu le truc en direct sans les commentaires des commentateurs, et c'était génial.
Oui.
Et Yarno Trulli s'est énervé contre le pauvre Sutil à peine sorti de la voiture, alors que le plus énervé des deux, ça aurait dû être Alonso qui était loin derrière,
oui.
Qui était super énervé, alors que c'est quand même lui qui va dépasser Adrian Sutil sur le vibreur, et il reproche à Adrian Sutil de l'avoir débordé. Bah non, après le deuxième virage, il est sur une piste étroite en plus. Il te laisse juste 30 cm sur le vibreur. C'est toi qui montes sur le vibreur, t'es pas obligé de le dépasser, tu peux attendre. Et le pire, c'est que après que Buemi ait tenté de tempérer un peu et de dire bon voilà, il était énervé et tout, j'ai essayé de lui expliquer, etc. Derrière, il en remet une deuxième couche dans les médias en disant que voilà, c'est de la faute de Sutil, etc. Et un peu la boule pépé, hein.
Ouais.
Donc Ouais, franchement, il m'a agacé sur ce coup-là.
Ah bah pareil, bah c'était un de mes deux drive-thru, tu vois. C'est pas... Surtout qu'on voit bien, à un moment, on a eu la vue intérieure de Sutil, et enfin, on le voit pas, Trulli, on le voit au dernier moment.
Ah, c'est clair. Ouais.
Et Trulli, il est quasiment, il est survivreur à moitié dans
et
l'air.
Voilà, en plus, c'est sa faute, c'est-à-dire que lui, il a quand même l'expérience du circuit d'Interlagos, il a une dizaine de saisons à son actif, et il sait très bien que les vibreurs à Interlagos, dès que tu montes dessus, t'es déporté vers l'extérieur du vibreur. Et il avait qu'à pas monter dessus. Il savait très bien ce qu'il allait faire.
Eh
ça
oui.
A pas monté, il est monté dessus, il a glissé, il s'est tapé, il s'est bouffé le mur.
Le gars, il a essayé de doubler à l'extérieur, bah, qui, voilà quoi.
Mesdames et messieurs, grâce à mon abus de pouvoir, vous allez pouvoir assister à une première historique dans toute l'histoire du SAV.
Putain, l'enfoiré, ça va être le même que le mien.
Vous allez avoir, pour deux émissions de suite, animateur qui va vous donner le même drive-thru. À savoir un drive-thru contre Yarno Trulli.
Ah.
Ah, donc voilà. C'était pas le tien, Enzo.
Non.
Et je sais que c'était pas celui de Shinji, puisque Shinji, je lui avais dit qu'il serait mon drive-thru.
Ouais.
Donc, pourquoi Yarno Trulli, me direz-vous?
Parce qu'il est con.
Parce que, monsieur Yarno
Trulli. Voilà.
C'est, comment dire, je dirais.
Oui, bah, c'est ridicule parce qu'il est con.
C'est ridiculisé en conférence de presse vendredi. En venant remettre le couvert avec Adrien Sutil, en pleine conférence de presse, avec à l'appui des photos, pour montrer à la presse du monde entier qu'il avait raison. Voilà. Et, ils se sont frités. Il a rappelé que Sutil avait tort. Sutil, assez fort dans les déclarations, s'est révélé. Lui, Sutil, qui a l'air quand même depuis le début, quelqu'un d'assez calme, d'assez posé, d'assez diplomate, hein, a lancé quelques
piques.
Et notamment, une pique que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, hein, c'est même pas un drive-through, à la limite, ce serait pas un drive-through contre Trulli, ça serait un applaudissement énorme sur Sutil, qui a dit, grosso modo, que, depuis le temps qu'il était en Formule 1, il était peut-être temps qu'il ait appris, à savoir comment on se compare sur la piste, quoi. Ah bah en fait ils étaient pas loin les extraits, hein, il fallait juste chercher correctement. Donc bah voilà.
Dans notre
Shinji catégorie suivante. Hein.
Oui. Et
on tourne.
Pour cette nouvelle catégorie,
la septième,
un grand classique du SAV.
Oui.
On va faire un peu de statistiques.
Oh.
Vous le savez, au SAV, on aime bien ça, on peut même dire qu'on adore ça. D'ailleurs,
Non. Au SAV, tu adores ça et nous, on subit.
Non. C'est l'occasion de profiter de cette cérémonie pour rendre hommage. Alors, je sais, on le fait tout le temps. Mais là, c'est la cérémonie, donc on le fait bien. Pour rendre hommage au site statf1.com.
Ah oui.
Cette véritable caverne au trésor pour tout fan de F1. Nous lui souhaitons sincèrement
une bonne année.
Un long et grand avenir pour ce site qui sait si bien nous replonger dans le passé. Ça donne pas du tout l'impression que ça a été écrit, cette phrase.
Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, tout ce qu'on fait depuis le début, c'est pas écrit.
Pas du tout écrit. Donc, une petite statistique, comme on les aime au SAV.
Ouais.
Sais-tu, Yannick, sur les...
Ah, je savais que je devine quelque chose.
Sur les 50 podiums les plus jeunes de l'histoire de la F1. Donc les podiums, oui. Hein, donc ça représente quand même les meilleurs sur une course. Combien ont eu lieu depuis 2003?
Sur les 50?
Sur les 50 premiers.
Je sais pas, 36, 37?
Alors là, je dois...
Appelez pas le Téléthon.
Je dois... enfin, c'est pas le chiffre exact, mais tu es quasiment. C'est
40.
C'est 40.
Ah ouais.
40 ouais. Sur les 50 podiums les plus jeunes de l'histoire de la F1, 40 ont eu lieu depuis 2003.
Hein. Eh ben.
Hein, la preuve, s'il en est, que on parle de nouvelle ère, de phénomène, mais s'il y a un grand phénomène de la F1 actuelle, bah, c'est son rajeunissement. Hein, la domination des Vettel, Hamilton, la domination peut-être future de Rosberg. Avant eux, déjà, l'arrivée des Alonso et des Raikkonen. Parce que si on vit à 2003, c'est pas anodin.
Enfin, surtout qu'on se rappelle Raikkonen et le contexte de son arrivée.
Exactement.
On disait qu'il était trop jeune.
Alguer Suari, pilote de F1 à 19 ans à peine. Sans compter, bah, il y a plein de...
Pour des trop jeunes.
Sans compter les petits jeunes qui vont débouler l'an prochain. Enfin, cette année. Je dis l'an prochain, mais c'est cette année.
Hein. Ouais.
Si ça continue, on va avoir des pilotes, ils auront même pas l'âge de piloter un scooter.
Ouais.
À ce rythme. Et deuxième question, parce que il y a un paradoxe dans cette statistique. Sur donc ces 50 plus jeunes podiums, il y en a 40 qui ont eu lieu depuis 2003. Mais sur cette liste des 50 podiums les plus jeunes, combien de podiums 2009 on trouve ?
Oh, il doit y en avoir, en plus jeune, il doit y en avoir un ou deux, je pense.
Exactement. Alors qu'on trouve donc de 2000.
Ah, c'est un ou deux ?
C'est un ! C'est un ! Sur les 50 podiums les plus jeunes, alors qu'il y en a 40 depuis 2003, il n'y en a qu'un seul.
Un seul, ça doit être. C'est comment ça ?
C'est Singapour avec la victoire d'Hamilton devant Glock et Alonso.
Ah bah ouais.
Hein ? Parce que 2009, c'est pas tant l'année des petits jeunes, ça a été des petits jeunes. Mais ça a aussi été celle des vieux briscards. Qui nous ont prouvé que, ben non, il ne fallait pas les oublier.
À l'image. Comment témoigne ?
Bah, déjà, notre champion du monde en titre.
Voilà.
Button. Alors, c'est pas le plus vieux, mais il a quand même dû attendre 10 saisons pour être enfin sacré.
Juste pour info, le seul qui a attendu plus, c'est Mansell.
C'est Mansell. Hein. Alors, parce que des trophées de meilleurs rookies, on en ramasse comme les feuilles mortes à la pelle. Hein.
Oh.
Voici le SAV d'or.
Ça non plus, c'est pas écrit.
C'est pas du tout écrit. Voici le SAV d'or du papy qui fait de la résistance en 2009. Et les nominés sont, mon cher Yannick.
Alors, les nominés sont Giancarlo Fisichella, Force India, Rubens Barrichello pour Brown Grand Prix, Marc Weber pour Red Bull Racing.
Président.
Le SAV d'or du papy qui fait de la résistance est attribué à...
Enveloppe. C'est une bleue.
C'est une bleue ?
Ouais. Ah.
Je vais faire les rouges, moi.
Alors, le SAV d'or est attribué à une... Faut bien le dire. Une écrasante majorité.
Oh.
À Rubinho.
Ouais.
Ben Barrichello.
Alors, faut quand même donner des chiffres. Hein. Il est choisi à
93%. Il est suivi par Marc Weber avec 7%. Et là, si vous êtes bon en calcul, 93 plus 7, ça fait 100.
Ah bah oui, dis donc.
Ça fait 100.
En stat, hein.
Ce qui veut donc dire que Giancarlo Fisichella, eh ben, il a pas eu de voix.
Alors pourtant, il s'est quand même déchiré cette année. Enfin, il s'est déchiré sur Force India.
Bah, il s'est déchiré chez Force India, il s'est déchiré chez Ferrari, mais c'est pas vraiment dans le même sens.
Voilà. bah pour Rubens, il y a un extra qui est déjà tout choisi. Sa victoire à Valence. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, on avait fait un petit jeu sur sa victoire à Valence.
Vem também rápido, não me interessa. O que interessa é a bandeira quadriculada. Aí vem ele, aí vem Rubens Barrichello. Traz, na ponta dos dedos. Puxa pra esquerda, com cuidado Rubinho. Com cuidado, equilibra pra vencer. Aí vem ele, aí vem ele. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil. Brasil! Rubens Barrichello do Brasil na ponta dos dedos! A centésima vitória brasileira na Fórmula 1! Brasil!
Alors, ça vous rappelle quelque chose maintenant?
Tu sais quoi? C'est autre chose que la fit, hein.
Ah, carrément!
Donc voilà, ça c'était pour vous introduire la victoire de Rubens Barrichello.
Rubinho!
Rubinho! La 10e victoire de Rubens en carrière, la première victoire de Rubens qui n'est pas une victoire Ferrari.
Et c'est la première. J'ai la première ayant eu lieu en Allemagne, en quelle année?
2002,
sous la pluie.
Sous la pluie. Ah, c'était magique.
C'était magique, cette victoire.
Ah ouais. On aurait dit Senna.
C'était beau. C'était
voilà.
Beau. Très beau.
Et donc là, justement.
Sans doute la plus belle victoire, d'ailleurs.
Ouais.
À part l'Autriche 2002.
Ouais. Donc, c'était sa première depuis 5 ans.
Première depuis 5 ans, le Grand Prix de Chine, je crois, 2004-2005.
2004.
Sur 2005, il a été très mauvais chez Ferrari. Ouais. Mais on lui pardonnera. Votre sentiment sur Rubens, sa victoire?
Mérité.
Mérité, oui.
Amplement mérité,
comme, oui. Comme on l'a dit, il avait déjà une grosse cote hein, au sortir de la qualif, avec son point en essence. Alors, la question, c'est...
Et j'ai une question. Est-ce que ça pourrait pas être lui, l'élu?
Ben, là...
C'est la crainte de... C'est ce qu'a déclaré Button. Il a dit que maintenant, il fallait qu'il se méfie de son équipier, qu'il allait devoir être agressif désormais, parce que Barrichello est revenu à 18 ouais. points, je crois, au championnat.
Ouais, on verra. Oui. Alors, encore un joli extrait. Je sais, je le dis tout le temps, mais c'est toujours des jolis extraits qui sont choisis.
Mais c'est tout à fait vrai. C'est, on...
Alors, Yannick.
Alors, attends, voilà, c'est bon, je suis dans mes fiches. Alors, nouvelle catégorie.
Oui.
La huitième.
Déjà.
Déjà. Que 2009 passe vite.
Mmh.
Et, bon, je vais être obligé, mais voilà, on va être obligé de faire un discours un peu chiant. Et dans une cérémonie, il faut faire un discours un petit peu chiant.
Ah, il y a toujours des discours chiants dans les cérémonies.
Pour les fans de Formule 1, c'est une affirmation qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Les pilotes de F1, enfin certains, sont des artistes. Pourtant, nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir de quelle forme d'art ils se rapprochaient le plus. On pourrait aisément affirmer que leur capacité à dessiner des courbes d'un coup de main net et précis sur leur volant n'est pas sans rappeler les gestes de Vinci, de Botticelli, de Monet et de bien d'autres. La facilité qu'ont certains à bâtir autour d'eux toute une équipe pourrait sans difficulté nous faire penser à des œuvres architecturales de Le Corbusier, par exemple. Mais cette saison 2009 nous aura également donné un aperçu de leur talent de comédien, Jenson Button se distinguant particulièrement dans le rôle de l'enfant qui trépigne d'impatience lors du Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton capable de réciter son texte à la virgule près en Australie, ou encore et surtout Nelson Piquet pour son triple Oscar pour son rôle de la victime dans une affaire dont il fut pourtant l'un des principaux coupables. Mais au SAV de la F1, nous pensons que ces artistes de la F1, ces véritables génies, son avantage à comparer avec les artistes qui évoluent depuis leur plus tendre enfance sur la glace artificielle. En effet, certains regardent le patinage artistique avec la même attente morbide de la chute que d'autres regardent la F1 dans l'attente de la sortie de piste, et il faut avouer que nos pilotes ont cette capacité à s'étaler comme des grosses taches tout en faisant preuve de virtuosité et d'une grâce sans égale. Et c'est pour leur rendre hommage, et parce que nous n'avons rien à envier à Nelson Montfort et Philippe Candelero, aussi bien pour notre irrésistible maîtrise des langues étrangères que pour notre propension à dire un lot incroyable de conneries, que nous allons attribuer ce premier SAV d'or du double boucle piqué triple XL double Lutz. Monsieur Shinji, s'il vous plaît, les nominés.
Lewis Hamilton en Italie. Sébastien Vettel et Robert Kubica en Australie. Adrian Sutil et Nick Heidfeld à Singapour.
Monsieur le Président, s'il vous plaît.
Le SAV d'or du double boucle piqué triple axel double Lutz est attribué à...
Attention, je tiens l'enveloppe. Ouh, elle est épaisse. J'espère que vous avez mis un timbre parce que dessus, ça fait plus de 20 grammes. Hein. Il n'y a qu'un timbre qui a 45 centimes, là, ça fait pas. Hein. Ça fait plus de 20 grammes, faut envoyer ça, faut mettre deux timbres. Bah, vous mettez deux timbres et puis on le recevra. Ah bah ça sert à rien puisque vous me le donnez à la main, donc pas la peine. Enfin, il voulait mettre des timbres sur une enveloppe qu'il me donne à moi, les cons. C'est vraiment mal organisé cette cérémonie, les mecs. Hein. Attention, je déchire l'enveloppe. Et le vainqueur est Lewis Hamilton en Italie.
Ouais.
Pourquoi tu dis ouais? Ah oui, c'est vrai, bah... non, mais il se casse la gueule. Ouais.
Qui d'ailleurs a cette année parfaitement répondu, j'ai envie de dire, à l'intitulé du SAV d'or. Hein.
Oui.
Puisque son crash...
C'est à peu près ça.
Il a fait un double piqué triple axel.
Mais c'est vrai qu'on a, je trouve... Alors, il y a eu beaucoup d'accidents ou d'abandons pour cause d'accidents cette saison. On en a eu des visuellement impressionnants.
Oui.
Mais là, il s'agissait surtout de donner une note artistique.
Oui.
Et c'est vrai que ces trois-là se distinguaient quand même magnifiquement. On va commencer par Lewis Hamilton, qui réunit 57% des suffrages. à mon avis, mais ça c'est mon avis personnel, le plus bel accident de la saison entre Vettel et Kubica en Australie. Parce que ce qui est beau avec cet accident, c'est que c'est un peu comme le patinage artistique. C'est-à-dire que les mecs se cassent la gueule une fois et ils se disent non, on va se relever, on va continuer.
Oui.
Et ils se recassent la gueule derrière. Et bon, bah, à partir de ce moment-là, il n'y a que Vettel qui continue. Hein, parce que... Et puis, il y en a un qui... Bon, Vettel et Kubica ont réuni 43% des suffrages. Et donc, comme vous êtes fort en mathématiques, tout ça, 57 plus 43, ça fait...
100.
99,99. Oui, si on arrondit, ça fait 100, effectivement. Et donc, effectivement, Adrian Sutil et Nick Heidfeld à Singapour n'a reçu aucun suffrage. Alors que quand même, la manœuvre d'Adrian Sutil, c'était quand même chouette.
Ouais, puis il y a cette espèce de bouffage de moustache.
Ouais, cette grande pirouette là qui est venue d'ailleurs aussi. Parce que... Mais en même temps, ça aurait pu être qualifié pour la fausse bonne idée, ce genre de choses.
Oui, tout à fait.
C'est au départ une bonne intention. L'idée de se dire, je vais vite dégager pour pas faire mal aux autres, qui se transforme.
Et pas de bol.
Voilà. Donc, on doit sans doute, alors là, sérieusement, si on n'a pas un truc sur Lewis Hamilton, je comprends pas. Donc, on va même pas réfléchir à un extrait. Voilà, écoutez, chers auditeurs. Donc, messieurs, les drive-thru of the weekend.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Je vous propose, comme j'ai un peu abordé le sujet, de commencer. Hein. Moi, je voulais en mettre un à Lewis. Parce que faire un bon grand prix comme il fait, j'ai fait un bon grand prix. Et. Alors que, avec Mac Brank et avec les trois pignoufs de TF1, on pourrait croire que Lewis pouvait remonter. Il reste 5 tours, on est sur un circuit italien. Même avec le Kers, il y avait très peu de chances qu'il dépasse Button. Je ne comprends pas pourquoi il a continué à attaquer. Il est en train de signer dans le dernier tour, il est en train de signer son meilleur premier partiel. Et je ne comprends pas. Alors c'est sûr, c'est une qualité d'être un attaquant et de jamais rien lâcher. Mais je ne comprends pas pourquoi, alors que là, il n'y a entre guillemets, plus rien à gagner. Et oui. L'intérêt, il a à continuer d'attaquer et donc à sortir, comme il est sorti à l'ESMO, au risque de se faire très mal et au risque de perdre 6 points pour en donner 6 à Raikkonen, qui reprend un peu plus d'avance au classement constructeur, tout comme Ferrari reprend le large. Donc voilà,
c'est Ferrari qui lui a demandé pour qu'il y ait un pilote Ferrari sur le podium.
Tu penses?
Voilà, c'est un complot.
Non, voilà, moi je... Alors il s'est excusé et tout après, etc. Mais voilà, c'est... Je trouve, là pour le coup, faut quand même se rappeler que c'est des mecs qui sont payés, qui sont des professionnels. Et là je trouve que c'est quasiment une faute professionnelle que de continuer à attaquer comme ça, même si McLaren lui met le feu vert, mais...
Virons-le.
Oui, voilà, virons-le. Ah là, c'était le bon vieux temps ça, hein, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que c'est bon comme souvenir. Ah, sacré Lewis. C'est limite, je m'en marrerais, mais vu ce qui vient après, Shinji, j'ai pas envie de rire.
Non, car on vous l'a dit, cette cérémonie, elle se déroule comme toutes les autres cérémonies.
Ouais.
La F1, c'est la vie. Comme l'a dit Steve McQueen, sur le circuit, c'est la vie. Tout ce qui se passe avant ou après, ce n'est que attente. Mais la vie, c'est aussi la mort. Une grande mort, une petite mort. La disparition d'un être cher. Oui, très cher. Surtout en F1, où tout est souvent très cher. Parfois trop cher. Mais des fois, pas du tout cher. Parce que faut pas déconner non plus. L'année 2009 a été particulièrement marquée par cela. Et c'est pour cela que le service après-vente de la F1 a souhaité rendre un dernier hommage à tous ceux qui nous ont quittés et qui n'auront plus la chance d'utiliser leur carte Visa Infinite ou Platinum Mastercard au distributeur à côté de l'entrée du Paddock Club. Merci de ne pas applaudir. Toyota
2002-2009.
Sébastien Bourdais
2008-2009.
les ravitaillements en course.
1994-2009.
Braun Grand Prix.
2009-2009.
Jimmy Raikkonen.
Mais merde, tu les fais pas dans l'ordre. Il commence quand, Kimi? 2001, c'est bon.
BMW.
2009.
ING.
2006-2009.
Les rêves de Donington Park.
2007-2009.
De Renault F1.
2009.
Les qualifications réservoir plein.
2006-2009.
Giancarlo Fisichella.
1996-2009.
Le Kers.
2009.
Luca Badoer.
1993-1999-2009-2009.
Le barème de points 2003.
2003-2009.
Nelson Piquet Junior.
2008-2009.
Rubens Barrichello.
93. Rubens Barrichello. Il est pas mort. Enfin, il est pas disparu, Rubens Barrichello. Oshiji, il est pas disparu, Rubens Barrichello.
Bah si.
Mais non. Mais non, il est.
Bah comme.
Mais non, il est. Il est chez Williams. C'est...
Comme Hervé Villard. Tu vois Hervé Villard.
Oui, bon. oui, je vois Hervé Villard.
Pareil, il est mort.
Non, il est pas mort.
Ah si, il est mort.
Non, Hervé Villard, il est pas mort.
T'es sûr?
Sûr. C'est Dixit les nuls, il est pas mort.
Oui, mais c'est les nuls.
Oui, mais il est pas mort.
Alors, s'il est pas mort, c'est vrai que Barrichello, il est pas parti?
Mais non, il est chez Williams.
Mais non, il était chez Brown.
Oui, mais il est chez Williams. Maintenant, il était chez Brown. Avant, il se rasait avec un rasoir Brown.
Ouais.
Maintenant, il se rase avec un rasoir Williams. Voilà. Il a juste changé le nombre de lames, en fait.
Oh.
Et qu'est-ce qui t'a pris de mettre Rubens Barrichello dans les disparus, là?
Bah, 1993.
Ouais, c'est vrai, en même temps, ouais. Non, c'était un beau moment d'émotion, mais on vous le rappellera. N'applaudissez pas. Même si on s'est pété un gros fou rire en plein milieu.
Tu t'es pété un gros fou rire.
Ah non, c'est toi qui es parti, tu t'es bien marré en plein milieu avec Kimi Raikkonen.
Mais non, je pleurais.
Ah, tu pleurais?
Mais je pleure, voyons.
J'ai pris ça pour un fou rire, moi.
Les rires aux larmes, c'est vrai que ça, c'était des pleurs, des larmes.
Non, voilà, on n'a pas d'extrait, hein.
Bah non.
Non, donc on passe directement à...
À la prochaine catégorie, au prochain trophée.
Oui, prochain trophée. Et ben justement, pour ce prochain trophée, je trouve que... Attends. Oui, comme ça. Allez, chez G, faut qu'on coupe, là.
Ah oui. Bon,
c'est important, c'est grave. Ouais. On me dit qu'il y a une édition spéciale de la rédaction de... Donc je passe, puis...
Bah, vas-y. Bah,
On interrompt nos programmes et attention édition spéciale.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le petit monde de la F1 a peur. En effet, comme nous venons de l'apprendre, la catégorie reine du sport automobile serait au bord de l'effondrement après une série d'attentes à son image et à sa crédibilité qui pourrait faire de la saison 2009 la dernière d'un championnat fort d'une histoire riche de près de 60 ans. Mais pour plus de détails, retrouvons notre envoyé spécial en direct du lieu du drame. Maurice, à vous la parole.
Oui, en effet Yannick, c'est ici au beau milieu de la saison 2009 que la Formule 1 a été secouée d'un séisme d'une ampleur inégalée selon les premières informations qui nous parviennent. Tout a commencé à Melbourne en mars dernier avec une première secousse mettant à mal la moralité du champion du monde en titre et de son écurie pour une sombre histoire de mensonges qui semble être l'épicentre de ce séisme. Mais en réalité, nous le savons maintenant, ce n'était que le signe annonciateur d'une catastrophe bien plus grande puisque les sismologues ont repéré une faille d'une proportion inégalée depuis le début des années 1980, séparant ainsi la FIA et la FOTA. Depuis plusieurs semaines, les tensions autour de la ligne de fracture avaient donné lieu à de nombreuses secousses, alertant les passionnés, et c'est en juillet qu'est arrivé ce qu'il convient d'appeler désormais un méga-séisme, provoquant une scission irrémédiable entre la FIA et la FOTA.
Maurice, on nous signale cependant que les secours sont arrivés à temps pour sauver la F1.
Tout à fait Yannick, alors que la situation semblait désespérée, les secours ont pu intervenir et fort heureusement, il n'y a pas eu de réplique à ce méga-séisme.
Cependant, on nous parle d'un autre cataclysme qui aurait touché la F1, et notamment une région appelée Renault. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui Yannick, tout à fait, c'est toute la région de Renault autour de sa capitale Briatore qui a été secouée fin septembre suite à l'explosion du volcan FIA. Certaines sources nous indiquent que la catastrophe était prévisible depuis plus d'un an, mais le drame semble être d'une ampleur sans précédent pour la Formule 1.
Y a-t-il des victimes ?
Écoutez Yannick, en l'état que de nos informations, il se pourrait que les villes de Briatore et Simons aient été rayées de la carte, à tout jamais, tandis que le petit village de Piquet aurait miraculeusement échappé aux coulées de lave et aux nuages pyroclastiques. Mais selon nos confrères dans la région, une inondation récente aurait lavé de tout soupçon Briatore et Simons jusqu'à ce que le volcan Effia n'explose à nouveau. C'est tout ce que nous savons pour le moment de cette succession d'événements dramatiques. À vous les studios.
Merci Maurice, nous ne pouvons donc pas vous en dire plus pour le moment et vous donnons rendez-vous pour un autre flash spécial dans la journée dès que de nouvelles informations nous parviendront.
Ça fait peur.
Ouais.
Voyons la vache. Vous êtes sûr que c'est vrai ça comme info les mecs ? Sérieux ? La F1 va exploser là. De quoi ? Ah d'accord, je passe à la catégorie suivante. Bon bah, apparemment faut qu'on continue, hein, donc justement tiens la catégorie suivante, ça plombe un peu le.
Bah oui bon, quand il se passe des choses graves, là en plus on sort d'une rubrique qui est pas très gaie, là ouais. Interruption, il se passe des trucs graves.
On va essayer de reprendre le cours de l'émission. Bon, j'avais fait un discours qui était plutôt décalé. Je pense que là, étant donné le contexte, je pense que je vais pas faire mon discours.
Ouais.
Donc voilà, le SAV d'or qu'aurait pu faire péter la baraque. Shinji, il est nominé, s'il te plaît.
Donc le crashgate où l'impensable devient pensable, la guerre FIA FOTA qui a failli aboutir à la scission du championnat. Le Liargate, quand le champion du monde en titre est accusé d'avoir menti à la FIA. Président ?
Le SAV d'or qu'aurait pu faire péter la baraque est attribué à...
Donc, alors, on va ouvrir l'enveloppe. C'est à moi de l'ouvrir, hein ?
C'est à toi de l'ouvrir.
Ah, c'est vrai que la dernière fois, non, c'était... Attention, je vais l'ouvrir. Ah ! Aïe ! Merde !
T'es pas malin, hein ?
Ah ! Ah ! Je vais me faire mal. Saleté d'enveloppe, va ! Ah, merde ! Oh mince. Shinji ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Je me suis coupé le doigt et puis pour m'énerver, j'ai déchiré l'enveloppe.
Donne-moi ça.
Tiens.
Ah bah voilà, le truc il est en deux morceaux maintenant.
Je suis désolé, ça m'a fait mal, je me suis emporté.
Bon, si je te mets le truc devant tes yeux, tu peux le lire ?
Oui, vas-y.
Vas-y, lis. Alors.
Et le vainqueur est... Ouais, attends, je me suis coupé avec le sang, ça me fait tourner, j'ai tourni.
Oui, t'as pas perdu 3 litres non plus. Hein.
J'ai perdu 3 grammes quand même. J'ai dit, c'est sérieux comme blessure quand même.
Oui, oui bah vas-y.
Je trouve qu'il va falloir qu'on me place en coma artificiel.
Oui, bah vas-y.
Bon, d'accord, bon alors. Vous avez vu, les chers auditeurs, comment ils me maltraitent? Je me suis blessé à mort et... Ah. Alors, le vainqueur, c'est la guerre FIA FOTA qui a failli aboutir à la scission du championnat.
Bon allez, va te soigner avant que ton doigt se scissionne aussi.
Merci. Non mais coupez pas. Mais non, juste un pansement. Mais coupez pas le doigt. Ah, c'est juste un pansement. D'accord. Merci. Ça fait mal, hein. Ouais. Ah, merci. Ouais. Hein.
C'est bon?
Ouais. Ouais, j'ai un pansement avec des bisounours, c'est des Ferrari dessus.
Ah. Ils sont rouges, les bisounours?
Non, il y en a un vert et un bleu.
Ah.
Bon. Alors, victoire de la FIA, FOTA.
Oui. Mais faut dire.
Surprise.
C'est vrai que...
Bah, ça se jouait en... Nous-mêmes, quand on a fait la liste des nominations, on a dit, bon, bah, il y a que trois nominations possibles.
Oui, de toute façon, c'est les trois évidentes.
Il y en a quand même deux qui devraient se partager.
Oui.
Et résultat, c'est vrai que le Liargate, hein, de Lewis Hamilton n'a réuni aucune voix.
Mais c'est vrai que c'est en début de saison.
Voilà.
Et puis que par rapport à ce qu'il y a eu après, ça paraît presque léger.
Bah disons qu'en début de saison, que le champion du monde en titre monte pour gagner une place sur le podium, on trouvait ça scandaleux.
Oui.
Par la suite, c'est presque normal, quoi.
Si tu veux, quand trois mois après, on parle de la disparition de la discipline, tu t'en fous un peu. Quoi. Voilà.
Je me demande si sur la FIA FOTA, on a quelque chose.
Sur la scission du championnat?
Ouais.
Oh bah oui.
Oh ouais, sans doute, ouais. Bah écoutez, chers auditeurs, on vous laisse voir si on a quelque chose et puis on vous reprend après.
Avant de revenir sur Silverstone, est-ce qu'on revient sur la guerre des 6 jours,
hein? Bah on peut,
sur cette guerre qui était censée faire couler énormément de sang, puis qu'au final ça aura fini en bataille de bisous. Donc oui, vendredi ils ont donc annoncé qu'ils avaient l'intention de créer un championnat parallèle. Donc là, comment ont réagi les fans que vous êtes?
Ah!
Ou chouette, deux fois plus de fans l'an prochain.
Oh non, pas ça.
Ah, t'aurais pas regardé les deux, toi?
Non, je crois pas.
Tu me diras, t'as déjà du mal à regarder le Grand Prix d'Angleterre. Donc ouais, vendredi, alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, à chaud, de cette histoire-là?
Bah, c'était quand même un choc, parce que... C'est un truc qui a longtemps circulé, mais que là, ils l'annoncent, enfin, qu'ils le disent, quoi. Qu'ils disent plus, on a l'intention de le faire, mais on va le faire. C'était quelque chose.
Ouais, mais ils ont déjà fait le coup, il y a... Les grands constructeurs ont fait le coup il y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc, Non, sincèrement, moi, ça m'a pas du tout inquiété.
Bah, moi, j'étais quand même un tout petit peu inquiet. Enfin, moi, pour tout vous dire, moi, j'étais inquiet, en même temps très content. Je me suis dit, voilà, on va avoir au moins une fin de saison super intéressante où on va parler de nouveaux circuits, de nouvelles équipes. On va avoir plein d'informations en plus, donc les fans de F1 vont être contents, il y aura deux fois plus d'informations. Et j'avoue qu'aujourd'hui, maintenant qu'ils ont fait la paix, je suis content pour la F1, mais je suis en même temps un peu déçu. Il y aura moins d'action dans les prochaines semaines. Et là, je suis d'accord avec Bernie Ecclestone quand il dit, mais tout ça, c'est bien pour la F1, on parle de nous, c'est la meilleure du monde. Eh ben, je suis d'accord avec lui.
Mais t'inquiète pas, de toute façon, on est bientôt au mois de juillet, on va pas arrêter de parler des transferts. Et puis alors, cette année, en plus, ça devrait bouger.
Oh, bah, ce serait bien de faire une émission spéciale transfert.
Oula.
Ah non.
On est pas au foot non plus.
On en reparlera après. Donc, revenons sur notre guerre des 6 jours. Donc, le premier jour vendredi, allons dans un championnat parallèle.
Ouais, c'est pas le premier jour non plus, hein. Il y a quelques mois que ça a commencé.
Ouais, c'est quelques mois, mais bon, là, la déclaration était officielle, que maintenant, ils abandonnaient toute négociation, en même temps, ils n'avaient plus trop le choix. Il n'y a qu'à voir, hein, je pense que s'il n'y avait pas eu la décision, Mosley et Ecclestone auraient sans doute eu un week-end un peu plus tranquille que ce qu'ils ont eu, parce que les images vendredi en essai, c'est limite, on nous passait toutes les 5 minutes une image des paddocks avec Ecclestone et Mosley qui étaient assaillis par une centaine de journalistes.
Ah bah voilà, on avait un extrait, c'est ce que je disais, hein. Ça saigne encore.
Bien sûr qu'on a... Oh là là.
Bah je te jure,
c'est... Ah, le bisounours, il est devenu tout rouge.
Bah, ah ouais. Alors, je dis, catégorie suivante.
Oui, attention. Parce que nous entrons dans la partie 16+ de l'émission. Attention, attention,
là, c'est
attention.
C'est la partie culture, mais juste le cul, quoi.
Voilà. Enfin, cul, c'est...
Oui, mais en plus, ouais. En plus, on s'est embêté dans l'énoncé à ne pas mettre le mot, et je le dis trois fois.
C'est vrai. Ah.
Manque de cul, manque de chance.
Donc, un trophée qui tient, j'ai envie de dire, particulièrement à cœur, ou plutôt à cul à Yannick. Avec cette célèbre phrase, hein, qui pour le plus grand désespoir de moi-même, d'Enzo et de beaucoup de personnes, est devenue un peu ta marque de fabrique. Hein, on peut le dire.
C'est vrai.
Eh bien, Yannick, j'ai pensé à toi.
Oh.
Je me suis dit, comment faire pour que 2010 ne ressemble pas à 2009?
Oui.
Alors, j'avais d'abord pensé à un sifflet. Tu vois que j'aurais sifflé à chaque fois de machin. Mais je me suis dit que si je devais siffler à chaque fois que tu nous sortais ta fameuse phrase, oui. Je finissais pas l'année.
C'est vrai. Hein, tu vas bien souvent siffler et très peu parler.
Voilà. Hein. Alors je me suis dit, au moins, tu vois, quitte à ce qu'il dise sa phrase, au moins qu'il varie un peu. Hein. Alors, ami de la culture, bonjour. Je t'ai cherché pour toi des synonymes
de cul.
Alors pas des synonymes de doigts, hein, des synonymes de cul. Hein.
Alors là, ça sent le passage très vulgaire.
Ah, donc c'est pour ça, c'est le passage 16 plus de l'émission. Si tu es un petit garnement en train de nous écouter, bouge-toi les oreilles. Hein. Au lieu de nous dire toujours sortir les doigts du cul, Yannick. Hein. Pourquoi tu n'utiliserais pas, par exemple, le mot arrière, arrière-train, brioche, derche, derrière, fessier, lune, noix, pétard, popotin, postérieur, croupe, croupion, séant, siège, médaillon, fion, moulin à vent, tal, baigneur, troufignard, cyclope, salle de danse, trousquin, jumelle, gros joufflu, baba, pétoulé, ouagne, pastèque, frangine, fiacre, fouettard, meule, le pétrus, le potard, la contrebasse, les petits pains, le tapanard, le tambour, j'en ai encore des dizaines. Alors Yannick, l'an prochain, fais un petit effort dans ta vulgarité, varie un peu. Regarde, j'en ai cité plus de 18, tu peux en faire un par grand prix. En attendant que Yannick achète un dictionnaire de synonymes, si je lui offre pas avant. Dans la catégorie du SAV d'or de celui qui s'est sorti le doigt de où vous savez, les nominés sont
Button pour l'ensemble de son œuvre au Brésil, Hamilton et Alonso pour leur bataille en fond de peloton à Silverstone, Rosberg et Vettel pour le double dépassement sur Massa à Monaco.
Président,
le SAV d'or de celui qui s'est sorti les doigts de là où vous savez est attribué à
Enveloppe.
Tu fais pas mal, hein.
Qui ne sort pas de là où vous savez, au passage.
Elle est blanche, elle est pas marron.
Elle est blanche, voilà. Le SAV d'or est attribué à... Oh, ce cher vieux couple. Hamilton et Alonso pour leur bataille en fond de peloton à Silverstone.
Alors là, ça va être drôle, si on leur en donne qu'un, ils vont chicaner comme des beaux diables.
Vous avez été 50% à voter pour Hamilton et Alonso. 29% pour Button pour l'ensemble de son œuvre au Brésil et 21% pour Rosberg et Vettel malgré ce magnifique double dépassement à Monaco. Donc bonne avance, même si de bons pourcentages quand même pour les trois.
Ouais,
faut bien le dire.
Assez disputé. Par contre là-dessus, est-ce qu'on en a parlé, je sais pas. Vu que c'est une bataille de fond de peloton.
Oh oui.
14e donc Fernando Alonso. Mais bon, il nous a livré un bon combat avec Lewis Hamilton. Et c'était très beau.
Combat de pur panache.
Ah ouais, parce que franchement, se battre pour la 16e place. La 16e place, se battre comme ça. Alors tout le monde regrette que ça soit pas sur la première. Mais moi non, moi je regrette pas que ça soit pas pour la première. Je suis pas sûr qu'il soit battu comme ça pour la première place. Ouais.
C'est ça qui est marrant, c'est vraiment l'esprit chevaleresque, quoi. Voilà, on va pour la 16e place.
L'esprit chevaleresque, je sais pas. Je pense que c'est surtout parce que c'est Alonso face à Hamilton et qu'ils se sont dit, non, pas derrière lui.
Bon. Ah, déjà le 12e trophée, Yannick.
Eh ouais. L'heure est venue de passer aux le choses sérieuses.
Ah oui. Ouais.
Hein, là on arrive dans du lourd.
Du lourd, du sérieux, du grandiose.
Voilà. On va s'intéresser à l'événement qui, d'entre tous, aura marqué cette saison 2009. Celui dont on peut sans doute penser que dans 20 ans, on en reparlera. Alors, pour ce SAV d'or, j'aimerais que tout le monde ferme les yeux. Enfin, sauf ceux qui sont au volant. Là,
évitez.
Vous garez sur le bas-côté, vous faites pause. Et puis vous fermez les yeux à ce moment-là. Vous fermez pas les yeux, à vous de choisir.
Ne marchez pas non plus. Enfin, je veux dire, si vous êtes sur un trottoir, par exemple, ne marchez pas.
S'il vous plaît. Surtout dans ces temps de neige, évitez quand même, parce que
voilà.
Faut bien voir les plaques de verglas. Donc, je vous demanderai de fermer les yeux, enfin, si vous pouvez, et d'imaginer. Nous sommes en 2029. La saison vient de se terminer par le sacre de Mick Schumacher, qui, à 30 ans, devient le deuxième homme le plus titré de l'histoire de la Formule 1, derrière son papa chéri, et notre dieu à tous, enfin une partie d'entre nous. Et ce, grâce à la prestigieuse écurie Force India. Oui, on voit loin, vous savez. Cependant, entre-temps, la Formule 1 aura connu une révolution avec la disparition de son manufacturier unique, Bridgestone, à la fin de la saison 2010, qu'aucun autre manufacturier ne voudra jamais remplacer, ce qui imposa aux ingénieurs de réfléchir aux premières Formule 1 à sustentation électromagnétique. Bon, bien évidemment, après des débuts difficiles et laborieux, et de nouveaux scandales politiques, dont sordide histoire de diffuseurs amovibles à effet rotatif transversal fabriqués à partir d'un polymère invisible, bon, un truc de dingue, il se trouve que la Formule 1 renoua avec son âge d'or. 2016 marqua le début de la première course automobile sur l'eau, par la volonté de Bernie Ecclestone. Et l'année 2029 sera entrée dans l'histoire avec le premier Grand Prix dans l'espace, remporté par le pilote de la toute nouvelle écurie, NASA. Cette révolution de la F1, bien évidemment, redistribua les cartes, mais les écuries historiques sont toujours de la partie, et nos enfants, à nous, chers animateurs, et à vous, chers auditeurs, écoutant cette 343... Putain la vache, le chiffre est grand. Cette 343e émission du SAV de la F1 vont vivre avec la nostalgie de la saison 2009. Et se demanderont alors quel était l'événement qui a marqué cette saison. Alors, ceci est bien sûr de la science-fiction, vous pouvez rouvrir les yeux. Mais une chose est sûre, dans quelques instants, un de ces trois événements sera celui dont on se rappellera dans 20 ans au service après-vente de la F1. Alors, les nominés sont, Shinji.
La fin de l'ère des constructeurs. La saison historique de Brown Grand Prix. Le crash de Felipe Massa en Hongrie.
Alors, monsieur le président, s'il vous plaît.
Le SAV d'or dont on se rappellera dans 20 ans est attribué à...
Alors, j'ouvre l'enveloppe. Et il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, là, les mecs. Il n'y a pas de bulletin. Il n'y a pas de vainqueur ou quoi y a pas... Hein? Vous avez oublié l'enveloppe. Ils ont oublié l'enveloppe.
Bah, tu viens d'ouvrir quoi, là?
Bah, il y a une enveloppe, mais vide. Enfin, ils ont oublié de mettre le bulletin dans l'enveloppe. Vous êtes vraiment des gros nuls, hein. Non, mais sérieux.
Vous êtes des nuls?
Mais on est en direct différé, là, les mecs. C'est sérieux. Et trouvez-nous le bulletin. Qui c'est qui l'a? Hein? De quoi? Ah, c'est moi qui l'ai pris tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Fallait que je rencontre les résultats. C'est... Hein? Vous en avez refait un, quand même. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, donnez, hein. Enfin, c'est jamais. Bah, ils ont refait une enveloppe, en plus. Ouais. Pas trop près, quand même. Alors. Ah, bah, là, il y a un bulletin. Voilà. Bon. Alors. Et le vainqueur est la saison historique de Brown Grand Prix et le crash de Felipe Massa.
Encore des ex-échos.
Encore des ex-échos.
On n'a pas été capable finalement de les départager.
C'est limite, tu vois, c'est presque une satisfaction qu'ils soient ex-échos.
C'est bon. Bravo à vous. Ouais.
Est-ce que... Alors, on va mettre deux extraits.
Oui.
Et on se retrouve juste après.
Bonne écoute.
Moi, Button, j'y ai toujours cru. Moi, franchement, dès le début, j'étais sûr qu'il allait être champion du monde. Ouais.
Dès les deux premiers
surtout rangs. Surtout en Chine.
Surtout en Chine, ouais.
Non, mais d'ailleurs, j'ai lu un truc très drôle, c'est comment ça s'appelle pour justement dire que nous, on y a tous cru dès le départ. Le patron de Virgin, comment ça s'appelle
Richard Branson.
Richard Branson a révélé récemment dans une interview que il aimait sponsoriser les équipes qui ne gagnent pas.
Ah.
Et donc il avait sponsorisé Braun en étant étonné qu'il gagne. Bien sûr, c'est logique. Donc en fait,
bien sûr,
il est presque déçu que Braun ait été titré.
Ils sont tous très cons.
Oui, bah oui. Ouais.
Bah alors, il rentre entre guillemets dans l'histoire pour être c'est la première équipe à gagner le titre dès sa première année, même si on sait que bon, c'est pas oui. non plus une nouvelle équipe, Braun.
Voilà.
Et surtout, chapeau bas à Rod Braun. Hein.
Ah oui, ça. Puis à noter que c'est aussi un entre guillemets une moitié de titre constructeur pour Mercedes.
Ouais.
Et ça aussi, ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé. Ça faisait, bah, pour le moteur...
Ah bah Mercedes, c'est leur premier petit constructeur. C'est leur premier petit constructeur depuis 10 ans.
Depuis 10 ans.
Ah, c'est énorme, moi.
C'est justement là qu'on va parler vraiment de Felipe Massa et de son accident.
Moi, surtout, ce que j'ai tilté, c'est le casque. Ça, c'est la première inquiétude. C'est pas tant le choc. Bon, même si on sait que c'est jamais positif de rentrer dans les pneus comme ça. Mais c'est surtout après quand tu vois voilà, que le casque ne bouge pas.
Et juste avant, Signe Prémonitoire, F1 Racing a consacré un article sur les casques. Ouais. On en avait même parlé lors de la dernière émission. Et dedans, il y a les deux précédents, qui sont le précédent d'Alan Alan Stacy en 1960, qui se prend un oiseau en pleine tête. Et l'accident plus tard d'Helmut Marko, mais en 72.
Plus effrayant, le F1 Racing, il y a une interview de qui? Il y a une interview de Massa. Et pour dire, parce que pour parler de ses résultats moyens de la Ferrari, ils mettent Massa n'est pas encore KO. Waouh. Wow. Ouais.
Et c'est ça en plus. Hein. C'est mine de rien, on est quand même dans un sport extrêmement superstitieux. Et là, dès que j'ai vu l'accident, je me suis rappelé l'accident de Surtees. Et je me suis dit voilà, on part dans un week-end, il va y avoir des trucs dramatiques. Et Enzo juste derrière qui me dit au téléphone. Tu te rappelles la dernière fois qu'un Brésilien est allé voir un autre Brésilien à l'hôpital? Ouais. Et là, je me suis imaginé Senna allant voir Barrichello en 94 et Senna mourant le lendemain. Enfin, deux jours après.
Et tu me dis, il faut qu'il fasse gaffe.
Barrichello, le pauvre. Mais je suis sûr que ça les a marqués, les pilotes.
Barrichello a dit qu'il y avait pensé chaque tour.
Ça a marqué tout le monde. On sentait bien pendant la course le lendemain, il y avait une lourdeur, quoi.
Et même Kimi, hein.
Oui, oui.
Moi, j'ai trouvé... alors, il y en a certains qui ont critiqué Kimi parce qu'il n'a pas eu un mot pour Massa, etc. Je pense qu'il l'a fait comme il le sentait et que je pense qu'il aurait trouvé... Il aurait pensé que ça faisait faux s'il parlait de Massa et s'il se mettait à dire « Oui, je pense à mon coéquipier, etc. » Il l'a joué très sobre et même sur le podium, il n'a pas explosé de joie sur le podium. Il était très sobre. Il a été... on l'a quand même senti marqué par cet accident. Et donc je voulais défendre Kimi.
Et ben voilà, on touche à la fin, Shinji.
Oui, puisque nous arrivons enfin au dernier trophée de notre cérémonie, de ces premiers SAV d'or du SAV de la F1 pour la saison 2009. The last but not least, comme disent les Anglais, et même d'ailleurs les gens qui ne sont pas anglais.
C'est vrai.
C'est vrai. Alors,
mais ils le disent moins bien que les Anglais.
Oui, on le dit moins bien que les Anglais, en effet. Alors, ce n'est pas notre dernier trophée, mais bien le vôtre, le SAV d'or des auditeurs. On vous a laissé la parole pour ce trophée, à l'image de ce qu'on essaie de faire sur notre site, hein, grâce à vos commentaires, grâce à vos articles, grâce à vos interventions dans l'émission, grâce à la pub que vous nous faites.
Ouais.
Pour tout ça, eh bien... J'ai envie de dire tout simplement merci. Hein. On espère que vous continuerez à nous être fidèles encore en 2010. Et pour ça, bah, on va essayer de rester fidèles à nous-mêmes, tout en essayant quand même de vous proposer des nouvelles choses, bien évidemment. Parce que le SAV, c'est comme la F1, tous les ans, les fondamentaux sont les mêmes, Mais faut bien qu'il y ait un peu de changement quand même. Alors, Yannick, toi qui as récupéré hein, les formulaires et donc les propositions des auditeurs, que peux-tu nous dire donc sur les propositions de nos auditeurs pour ce premier SAV d'or des auditeurs?
Eh ben, Shinji, tout simplement, je pense que le plus simple, ce sera de citer toutes ces propositions.
Bien sûr.
Hein, donc, je vais prendre la parole pendant environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Hein. C'est rare, je sais, mais... non, mais il y a plusieurs propositions avec des propositions, avec enfin des tendances qui se dégagent. Donc, je vous laisse découvrir. On a d'abord un auditeur qui s'est tout récemment manifesté, Bilo, qui nous propose comme SAV des auditeurs le Grand Prix de Malaisie. Parce qu'il n'y a eu aucun tour où l'on s'ennuie, une vraie course de F1 durant 33 tours de pur bonheur.
Mmh.
Voilà. On a une autre proposition qui émane de Iceman Air.
Mmh.
Alors là, bon, vous allez sans doute vous douter de qui l'a proposé, quoi. Hein. Mais je vais vous le dire à la façon de Iceman Air.
Mmh.
Eh bien, pour réparer une affreuse injustice, je dirais la quatrième victoire de Kimi Raikkonen à Spa-Francorchamps et potentiellement la cinquième consécutive, ainsi que sa belle série de quatre podiums consécutifs. Car au-delà de mon fanatisme pour ce pilote, cette victoire sauve quand même la saison de Ferrari et prouve que malgré des débuts extrêmement décevants, la Scuderia a su redresser la barre pour revenir dans le peloton de tête. De plus, Raikkonen s'impose définitivement comme l'un des plus grands maîtres du toboggan des Ardennes, sinon le plus grand, derrière Schumacher. Ça c'est moi qui rajoute. Hein. Enfin, je tenais absolument à rendre hommage à Kimi pour l'ensemble de son œuvre en F1, car quoi qu'on en pense, il mérite de la reconnaissance, ne serait-ce que pour son titre de champion et ses 18 victoires.
C'est clair et complet.
Bon, ensuite on a la proposition de Bertaillot, qui lui attribuerait un SAV d'or du pilote qui s'est bougé le fion pour partir en beauté pendant que son ex-coéquipier agonisait. Autrement dit, Shinji...
Kimi Raikkonen ?
Oui ! Dont il nous précise qu'il va lui manquer.
Bah oui.
Donc tu vois, Iceman Air...
Tu n'es pas seul.
Voilà, y a des
nous
gens,
ne sommes pas seuls.
Il y a des gens qui l'aiment. Ensuite, nous avons la proposition d'un certain Enzo.
Ouais.
Enzo. E-N-Z-O.
Ouais.
Enzo.
Enzo ?
SAV d'or du mauvais choix de l'année, attribué à Fisico qui va chez Ferrari pour Monza alors qu'il aurait pu faire quelque chose de bien avec sa Force India en Italie devant son public.
C'est vrai.
On a le SAV d'or, la proposition de Stéphanie, qui nous propose tout simplement Raikkonen. Nous avons la proposition de F1 Prono, qui proposition très originale, qui nous dit « Ah, mais je ne sais pas, je suis nouveau, je ne connais pas les auditeurs, fichtre !» J'avoue que cette proposition-là...
Sérieux, il a mis ça?
Oui, oui. Alors, on a un invité de marque, en la personne de Jean-Louis. Enfin, pas Jean-Louis Moncé, hein, Jean-Louis, tout court, qui déclare « Aux anciens champions, j'attribuerai donc un SAV d'or des auditeurs, comme Alonso, Hamilton et Raikkonen, qui ont subi cette saison avec beaucoup d'humilité. » Nous avons la proposition de Maël, qui nous suggère, et je pense que là, c'est à ce moment-là qu'un favori se dégage, qui nous suggère d'attribuer le SAV d'or d'honneur au SAV de la F1 pour son émission qui traite de la Formule 1 avec une touche d'humour. Ah, je pense que là, cette proposition-là prend le large. La proposition de Juju, qui suggère que le SAV d'or du chiffre inutile soit attribué, et il propose comme lauréat la ville à zéro émission de CO2.
Ah oui, d'accord, je vois.
On a un nouveau aussi, Yannick.
Oh, tiens, un nouveau, ouais.
Qui propose le SAV d'or du circuit qui nous manque, pour Fuji, parce qu'il était peut-être affreux, mais le Grand Prix du Japon, il était plus passionnant que cette année. Pitié, ne votez pas pour ça. On a une proposition de Fab007, qui dit que mon SAV d'or est incontestablement pour Ross Brawn. Alors certes, ce n'est pas le patron d'une petite écurie venue de nulle part, et il a grandement profité de la manne financière de Honda, mais il a réalisé une voiture superbe, tant sur le plan des performances que sur le plan de l'esthétique, ce qui n'était pas forcément gagné. BMW et Renault en sont des exemples. Et surtout, il a fait confiance aux deux pilotes qui ont connu la galère avec Honda pour les propulser aux avant-postes. Il fait coup double et pour moi, c'est le bonhomme de la saison, même si je suis fan de Button. Le SAV d'or d'honneur proposé par Kevin, qui est le SAV d'or du circuit qui offre des courses chiantes à chaque année.
L'Espagne ?
Oui.
Bahreïn ?
Barcelone. Eh. On pourrait même dire, en ce cas-là, le pays qui offre...
Oui.
Globen, qui nous propose un SAV d'or en l'honneur du champion du monde 2007, qui a remporté la seule victoire de l'année pour Ferrari et qui sait, sera peut-être vice-champion l'année prochaine.
Enfin, F1, ouais.
On a le SAV d'or de Shinji.
Ouais, encore un nouveau.
Voilà. Qui dit, pour Kimi Raikkonen, parce que si on lui enfile pas un maintenant, il est pas prêt d'en avoir un. Bon.
C'est une bonne raison.
Oui, voilà. Bon, je pense que, franchement, il y a un favori qui se dégage, là.
Il y a quand même une personne qui a été nommée 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois.
Non, mais on a eu une nomination que de Maël pour le SAV de la F1. Tu voyais qui, toi, d'autre que... C'est la tendance, c'est le SAV de la F1, moi.
Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne, parmi toutes les propositions, qui, en nombre, aurait été citée plus souvent que les autres?
Honnêtement, je pense qu'on devrait accepter humblement le SAV des auditeurs.
Non, on ne s'auto-attribue pas un SAV.
Tu vas le donner à qui?
Je sais pas, peut-être au champion du monde 2007.
Non, je lutterai.
Rival de Schumi, rival d'Alonso.
Je lutterai, je vais lutter.
Et qui va peut-être commencer une nouvelle carrière en WRC.
Non, je lutte.
À moins que ce ne soit qu'une étape.
Non, je lutte, je lutte.
C'est le SAV des auditeurs et une presque majorité d'auditeurs ont choisi un homme.
Oui, Et moi, j'ai pas envie.
Mais si, justement, il part, c'est le moment de lui en offrir un.
Ah, c'est pas con, ça. Ah, ça, c'est un bon argument.
c'est mon argument. C'est il se barre, alors autant lui enfiler un, sinon on lui enfilera jamais.
Allez, alors on le donne à Kimi Raikkonen.
Tu vas souffrir l'an prochain.
Pourquoi? Oui, ah oh, non, arrête.
Bah, je sais pas, allons chez Ferrari, chez Mercedes.
Arrête. Elle est une merde. Kimi, reviens Kimi.
Donc on le dit quoi, le SAV d'or des auditeurs 2009.
Oui, vas-y, fais-toi plaisir.
Hein? Est attribué à Kimi Raikkonen.
La grande question c'est est-ce qu'on va avoir un extrait qui flatte l'ego de Kimi Raikkonen.
En Belgique, on devrait bien trouver quelque chose.
Ouais, ça c'est pas comment on est. Par contre, avant, en début de saison...
Non, je pense pas.
On risque de trouver d'autres choses. Cherchez, mais moins flatteuse.
Cherchons la Belgique.
Ouais, on va aller du côté de la Belgique dans les Ardennes. Oui, Kimi est un bon pilote, mais si c'est pour avoir un veau comme il a cette année chez Ferrari, enfin comme il a eu au début de saison, et qu'il fait pareil, je vois pas comment il va se motiver avec une Toyota ou avec une Brawn qui sera pas capable de faire la 5e ou la 6e place.
Puis on sait que c'est pas lui qui va aider à la mise au point.
Ah bah non, ça c'est certain. Donc voilà, oui, c'est sûr, il sera dans une autre équipe, ça sera autre chose, et ça sera toujours un prétendant, mais ça sera pas une menace, surtout si chez Ferrari, ils ont Alonso et Massa, un Massa en pleine forme en ce moment, avec le sérieux de Massa, il est peut-être moins génial que Raikkonen, mais un Massa en pleine forme fait largement plus de résultats en ce moment que Raikkonen.
Et puis méfions-nous de l'effet Niki Lauda, hein. Qui c'est Massa en 2010
Oui.
Iceman Air, tu remarqueras que moi j'ai rien dit. Moi, je trouve qu'il a fait une très belle course. Il mérite amplement sa victoire. Moi, il m'a ébloui. J'espère qu'il restera chez Ferrari.
Ah, je sais, tu vous l'ai dit, il s'est excusé après la course.
J'en fais trop là. Non, ça se voit.
Non.
Non, c'est bon.
On a oublié un SAV d'or.
On a oublié un?
Ouais. C'est le SAV d'or de la question concours top opposition qu'on a encore jamais répondu.
Ah oui.
Bon alors, qui se rappelle de la question? On est obligé de la mettre à un moment donné, cette question, parce que... Donc on colle un SAV d'or spécial.
La question... C'était la question d'Abu Dhabi.
Oui.
Et la question, c'était quel était le signe distinctif du casque de Button lors du Grand Prix d'Abu Dhabi?
Et la réponse était...
Eh bien, sur le dessus du casque, il y avait les signatures de membres de l'équipe.
Et
pour
voilà.
Célébrer les deux titres de Brown Grand Prix et de Jenson Button. D'ailleurs, il avait aussi une espèce de tampon sur le côté World Champion 2009.
Donc, est-ce qu'on a eu des réponses Je sais qu'on en a eu, il faut juste que je les retrouve. Donc, nous avons reçu 3 réponses.
Oh, oh.
Une réponse de Globen, une réponse de Sato, une réponse de Maël. Et, comment on va tirer au sort? Ah bah, on va tirer au sort à la façon PlayStation.
Façon PlayStation.
Tu as le choix entre croix, triangle et carré.
Eh bien écoute, je vais choisir croix, puisque dans les jeux de bagnole, croix c'est accéléré.
Eh bien, tout ce qu'on peut dire, c'est que le frigo de marque Bosch de Globen va recevoir un nouveau visiteur. En la personne d'une magnette spéciale à Abu Dhabi. Donc voilà, c'était le SAV d'or du magnette qu'on oublie.
Du dernier magnette
voilà.
De la saison.
Donc ben voilà, c'est fini.
Oui, dans la première cérémonie des SAV d'or.
Si j'espère, on appellera une autre.
Oui, on l'espère.
Voilà. On va se donner rendez-vous pour le début de saison.
Oui, quelque part vers début mars.
Voilà, pour une émission pronostique et un peu guide de la saison.
On vous dira ce qui changera, ce qui changera pas.
Voilà.
Oh, cette voiture, elle est moche. Oh, cette voiture, elle est pas moche.
Pourvu que la Ferrari soit belle.
On saura enfin quel est le barème.
Oui, ça aussi, c'est intéressant. Et on pourra reparler de tous les sujets d'actualité et notamment d'un sujet en particulier qui a été annoncé peu avant Noël, d'un homme qui a fêté ses 41 ans le 3 janvier dernier et qui pilotera pour la première fois pour Mercedes en Formule 1.
Un vieillard quoi?
Non. Je veux bien, non. Un jeune homme.
Ah, regardez, il est en train de passer du rouge au gris.
Oui, c'est dur pour moi aussi, là. Je suis dans le deuil de chimie. De chimie. Un mélange de chimie et de chimie. De chimie.
Non,
mais c'est vrai. Enfin, oui, il y a Vettel, mais il n'est pas là où je voudrais que tu sois.
Bah oui, je m'en doute.
Donc, on va vous donner rendez-vous pour cette prochaine émission.
Voilà.
En espérant y retrouver Enzo.
Mm-hmm.
Voilà. Qui a pas vraiment été très absent de cette émission, puisque... Et puis, pour finir cette émission, on a une bonne nouvelle.
Oh.
Je sais pas si tu te rappelles, Shinji. J'avais lancé à une époque le répondeur du SAV.
Ah oui.
Sauf qu'apparemment, oui. En ce moment, la F1, ils ont pas de pièces en panne, donc ils appellent jamais le SAV.
Non, c'est vrai.
Et pourtant, on a quelqu'un qui a appelé.
Oh, non,
donc,
sérieux.
Je pense que le mieux, c'est qu'on vous laisse sur ce message du répondeur du SAV. Donc voilà. Allez, salut à tous.
Salut à tous.
Service après-vente de la F1.
Ma, c'est Flavio. Dis donc, vous venez plus aux soirées? Au réveillon, on avait invité plein de gens du Gotha de la F1. Et comme invité d'honneur, Michael. On s'était passé le mot, habillez-vous tous en gris, gris argenté. Gris Mercedes, évidemment. Bon, on a invité tout le monde, mais Luca n'a pas voulu venir. Il préférait rester en rouge. Oh là là, quel chour. Bon, sinon, on a eu des problèmes avec Ralph et Jacques Villeneuve. Ils voulaient tous les deux rentrer. Ah ben non, même pas. Et puis Rubens aussi, il n'a pas voulu venir. Quand il sait qu'il y a Choumi maintenant. Bon, on vous laisse. Il y a le petit Alguersuari qui s'est... Bourré au champomis, on a dû l'emmener à l'hôpital. Voyez-vous là.